Bien, bonsoir à tous. On va commencer. Donc tout d'abord, bienvenue à ceux qui ne sont pas encore venus dans ce séminaire de recherche Ambiance pour habiter. Donc c'est la première séance de cette année en présence donc de René-Jacques Maillère. Alors je vais tout de suite vous dire que moi j'avais prévu large, hein, on a envoyé 400 invitations, plus de 400 invitations. Donc on voit à quel point ça marche et ça intéresse du monde. Mais j'allais dire qu'on n'a pas besoin d'être très nombreux pour être intelligent et pour se dire des choses intéressantes. Je voudrais juste revenir, faire une toute petite intro pendant 5-10 minutes, avant de laisser la parole à mes deux collègues, Jeanne Tinel et Evangelos Vassiliou, simplement pour présenter un peu ce séminaire. Ce séminaire qu'on a appelé Ambiance pour habiter, séminaire qui a été créé quand même en 2012. Ça fait maintenant effectivement 3 ans qu'il vit, à raison de 6 à 8 séances par an, et que nous avons monté au sein de l'école comme un lieu de discussion, de débat, un lieu d'intelligence, c'est-à-dire faire en sorte que l'école s'empare d'un certain nombre de sujets de recherche, initier une démarche, alors c'est un gros mot, pardonnez-moi, mais scientifique dans l'école, ce qui n'existait pas au préalable, sachant que nous sommes une école qui ne possède pas de laboratoire de recherche, qui ne forme que 2 cycles, en tout cas qui ne propose que 2 cycles de formation, qui ne possède donc pas de 3e cycle de recherche. Néanmoins, on pensait que l'école, Camondo, devait s'emparer d'un certain nombre de thématiques, de concepts, et essayer de les faire progresser à la mesure et au regard et à la lumière de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle sait faire de mieux sur l'espace, sur le design, sur l'architecture d'intérieur. Alors nous avons pris ce mot recherche dans son acception la plus simple, son sens le plus élémentaire. La recherche, c'est tout simplement un mot qui ne doit pas faire peur, c'est une démarche, et une démarche qui doit produire des connaissances. Et il s'agit de ça ici, produire des connaissances par la discussion, la conversation, par le dialogue et puis surtout par la présentation d'un certain nombre de travaux réalisés par des chercheurs, mais voire aussi par des praticiens, par des spécialistes qui sont soit des gens qui sont dans nos domaines, ceux pour lesquels vous êtes formés, l'architecture d'intérieur, le design, soit des domaines complètement extérieurs. Et pour tout vous dire, au cours des années qui viennent de s'écouler, on a reçu des philosophes, des photographes, des plasticiens, des théoriciens, des historiens. Il y a eu effectivement une grande diversité d'interventions au cours de ces 3 dernières années. Alors, la démarche de l'école, c'était effectivement de faire en sorte que les étudiants y participent. Alors, je vous rappelle juste, et ça, vous pouvez passer le mot à vos camarades et à vos condisciples, ce séminaire est un satellite du séminaire mémoire, c'est-à-dire du cours de mémoire. Il est intégré à la pédagogie, il est obligatoire pour les étudiants de 4e et de 5e année. Donc, vous êtes là ce soir en force, bien sûr. Il n'est bien que pas crédité, c'est-à-dire que c'est quelque chose en plus du séminaire mémoire, et qui doit vous permettre d'aborder des questions que vous n'abordez peut-être pas au cours de ces séances d'encadrement du mémoire de 4e et de 5e année. Et puis ce séminaire, il était aussi à destination des enseignants. C'était un peu l'idée de départ, c'était essayer de créer des vocations. Et pourquoi pas, effectivement, favoriser l'inscription de certains enseignants, de certains jeunes diplômés, pourquoi pas, dans des cursus de recherche, dans des masters ou des doctorats proposés par le ministère de l'Enseignement supérieur, l'université, ou des formations connexes à la nôtre. Alors, je voudrais juste faire une petite digression sur la recherche, parce qu'effectivement, ça pose un certain nombre de questions. Et là, il y a des gens autour de la table qui vont tout de suite voir où je veux en venir. La recherche en art appliqué, puisqu'on est une école d'art appliqué, c'est un sujet à part entière. C'est tellement un sujet que, autant dans le domaine des sciences dures, si je puis dire, que de celui des sciences molles, certains parlent de sciences souples, c'est-à-dire les sciences humaines, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie. La recherche a ses méthodes. On sait comment on fait de la recherche. On apprend ça à l'université. Il y a des corpus de référence, il y a des méthodes, il y a des sources. Et j'allais dire que le terrain est déjà balisé. En art appliqué, c'est un peu plus compliqué. Pour tout vous dire, en 2012, lorsqu'on a lancé le séminaire, la première séance, qui a eu lieu, je crois, en février 2012, il y avait dans le même temps un colloque international qui s'est déroulé à l'École nationale supérieure d'architecture de Belleville, qui était intitulé « Art et recherche ». Art et Recherche, c'était un colloque qui réunissait principalement les écoles nationales supérieures d'art du ministère de la Culture, à un moment où ces écoles étaient censées se mettre à niveau quant à la réforme européenne de l'enseignement, c'est-à-dire créer des LMD, licence, master, doctorat. Alors autant LM, licence master, c'était pas très compliqué, mettre en place des doctorats, ça devenait extrêmement complexe dans la mesure où se posait la question, qu'est-ce que la recherche en art, qu'est-ce que la recherche en art appliqué? Alors, sans détailler les conclusions du colloque, l'idée principale et une des conclusions de ce colloque, c'était que la recherche se fait par la pratique et que la pratique se fait par la recherche. Ça s'est traduit par une formule, research by design, design by research, cette idée que les maîtres mots étaient partagés entre la pratique, l'acte même de produire et d'appliquer, et puis de l'autre côté, la théorie, le monde des idées, des concepts. Alors, ça nous met tout de suite dans l'ambiance et peut-être, sans mauvais jeu de mots, nous expliquer pourquoi cette première séance de ces séminaires aujourd'hui à la rentrée 2015. Cette idée que la recherche reste une production de connaissances, donc quelque chose de relativement abstrait. Il n'est pas moins vrai que l'application engendre des concepts, engendre des idées, et que les idées servent l'application, c'est-à-dire que dans votre travail quotidien de démarche de projet, on vous demande effectivement un travail d'analyse, un travail de recherche, un travail de référencement, et qu'on commence toujours, j'allais dire, par réfléchir, par s'attacher aux connaissances avant d'entreprendre la démarche de projet. Et dans ce sens, c'est quelque chose qui n'est pas désincarné, c'est-à-dire qu'on est effectivement, et vous êtes autour de la table pour les professionnels que vous êtes, que ce soit des plasticiens, des architectes d'intérieur, des architectes ou des designers, peu importe, vous êtes constamment en recherche. Alors, effectivement, il y a une forme d'ambiguïté qui ressort de cette opposition, mais qui, j'allais dire, il ne faut pas qu'elle nous arrête. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans quelque chose qui est relativement connu. Tout n'est pas recherche, tout n'est pas conception, tout n'est pas application. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une dynamique globale entre le faire et le penser. Et c'est un petit peu ici l'idée de ce séminaire. Troisième point que je veux aborder avant de laisser la parole toujours à mes deux collègues qui s'impatientent, c'est l'idée des ambiances pour habiter, les ambiances et l'habiter. En 2012, lorsqu'on a créé ce séminaire, il fallait lui donner une identité. De quoi allait-on parler ? Trouver un thème, trouver un axe, trouver une entrée. Alors on a beaucoup débattu à l'époque, Dominique peut en témoigner, il était là présent, savoir comment effectivement orienter ce séminaire. On a choisi cette thématique des ambiances et de l'habiter. Ambiance pour habiter. Cette idée que c'est une thématique suffisamment large pour y faire entrer, j'allais dire, énormément de choses, et en même temps extrêmement ciblée, elle est assez paradoxale, pour pouvoir s'attacher à des choses qui sont propres à l'école. La question des ambiances, elle est récurrente dans votre scolarité. J'allais dire que c'est une intervention, en tout cas, c'est propre à l'intervention sur l'espace que de générer d'ouvrir des ambiances. Sur l'habiter, je n'insiste même pas, c'est un des propos qui est tenu par l'école. Il s'agit effectivement de concevoir l'habité et les ambiances et l'habité ensemble formaient un couple relativement efficace. Les ambiances parce qu'elles concernent l'espace dans sa globalité, de manière transversale à toutes ses échelles. Et puis les ambiances parce qu'en France, et c'était l'idée qui était défendue à l'époque par Philippe Louguet, qui aujourd'hui a quitté ses fonctions à l'école, il est parti à la retraite, qui était alors directeur du laboratoire de recherche de l'école d'architecture et du paysage de Lille, le LAR. Philippe Louguet, qui a participé à la mise en place de ce séminaire et qui nous dit à l'époque, effectivement, qu'il relevait que cette question des ambiances était portée par deux laboratoires en France qui sont spécialisés de la question. Certains d'entre vous, dans le cadre de leur mémoire, le savent déjà. Deux laboratoires de recherche que sont le CERMA de Nantes et le Cresson de Grenoble. Deux laboratoires liés à des écoles d'architecture et dont les recherches concernent à la fois l'architecture mais aussi l'espace urbain. Ils sont à l'échelle de la ville. Et un des constats que l'on s'est fait à l'époque, c'est que l'échelle du domestique, l'échelle de l'intérieur, l'échelle du design n'était pas traitée dans ce sens. Et il y avait là un champ qui pouvait intéresser l'école Camondo. Et d'autant plus que c'est peut-être ce que Camondo fait de mieux, cette architecture de l'intérieur, là je cite Emmanuel Benet qui avait cette jolie expression, de l'espace à l'objet, comme le disent tous nos documents de propagande. Je voudrais juste évoquer avec vous, si on peut relancer le Jam, j'ai demandé de faire l'appariteur, si tu peux me mettre le Google, enfin, ou le Safari. On a depuis créé un outil de communication. Alors ça, je le dis pour les enseignants comme pour les profs, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup communiqué encore sur l'outil de communication, mais on a toujours un petit peu de mal, c'est une mise en abîme. L'année dernière, on a mis en place, avec Noël et Bertrand de la bibliothèque, Bertrand n'est pas là ce soir, mais sera là présent à certaines des séances futures, un outil de communication, un blog qui s'appelle La Recherche École Camondo, qui est un blog tout simplement fait sur WordPress, hein, dans lequel et sur lequel on va diffuser à la fois les annonces des séances du séminaire, mais aussi les enregistrements sonores qui est en cours là actuellement, à défaut de pouvoir y mettre des captations vidéo, mais à terme c'est évidemment l'idée, une plateforme de communication, plateforme qui est aussi alimentée régulièrement par Bertrand avec son blog. Alors avant il avait un blog qui était indépendant et qui traite des questions liées au design et surtout à l'architecture d'intérieur. Je ne saurais trop vous recommander de lire ces articles intitulés, cette série d'articles intitulée L'architecture intérieure n'existe pas. Évidemment Bertrand fait preuve de beaucoup d'ironie, mais qui sont extrêmement intéressantes sur la définition de ce champ, de cette discipline, et vous allez voir où je veux en venir. Avec l'idée à la fois que vous avez les équipes de chercheurs, si tu redescends un petit peu sur la page, merci James, ou plutôt plus haut, vous avez les... Remonte l'onglet supérieur. Voilà, regarde, tu vois, les chercheurs, le séminaire, les thèmes, et puis un onglet sur les ressources documentaires, c'est-à-dire qu'on a lié ça avec un site, un blog annexe, des ressources documentaires de l'école, où il y a une espèce de dynamique qui se met en place entre la bibliothèque, le séminaire, l'enseignement en général, la pédagogie de l'école, mais autour de ces questions plus conceptuelles, encore une fois, cette idée d'une production de connaissances et de l'outil pour la communiquer. Et puis, avec Bertrand, il se trouve que les arts décoratifs ont lancé une campagne d'inventaire et de mise au point en ce qui concerne les archives de l'institution, aussi bien du musée des arts décoratifs que de l'école Camondo. À partir de là, ont été exhumés quelques documents sur la fondation de l'école. On a fait ni une ni deux avec Bertrand, on a monté une équipe de recherche, lui et moi, pour l'instant c'est surtout lui qui bosse, et on a lancé un appel à contribution sur le blog. Il y a effectivement un appel à contribution qui doit être en bas à gauche, appel à contribution sur l'histoire de l'école, où on a déjà reçu, un certain nombre, Bertrand a collecté et réuni des documents attestant de l'histoire de l'école, c'est-à-dire la fondation du Centre des Arts et Techniques en 1944, du côté de Monceau, qui va s'installer dans le musée Camondo et qui deviendra quelques années plus tard l'école Camondo. Il a déjà réuni des documents sur la première promotion et effectivement on est en train de constituer un fonds documentaire pour l'instant qui permettra à terme de se poser un certain nombre de questions, questions qui, je pense, nous intéressent fort, c'est-à-dire des questions aussi simples que qui sommes-nous, d'où venons-nous, et quel est, alors vous me pardonnerez le mot qui est très à la mode et très contesté et contestable, mais quel est l'ADN de l'école Camondo, d'où on vient, qui a fondé cette école et pourquoi faire, et quelle a été effectivement son évolution au cours du temps. Et là, j'en viens au dernier point. Ouf. Pardon, Evangelos. Cette idée du programme 2015-2016, qui est née en fait de conversations, entre autres, avec René-Jacques Maillère. Et René-Jacques, tu as rapidement identifié certaines ambiguïtés à la fois dans la manière dont l'école se présente, mais aussi dans la construction de sa pédagogie. Et entre autres, je ne signalerai que l'intitulé du diplôme. On produit un diplôme qui s'appelle un diplôme d'architecte d'intérieur-designer, ce qui n'est pas sans poser des questions. Il n'a d'ailleurs pas toujours été appelé comme ça. À un moment donné, je pense que Jam en parlera, il s'appelait autrement, un nom beaucoup plus long, d'architecte d'intérieur, design de produits d'environnement. Mais cette idée que, eh bien là, il y a des questions qui se posent sur ce que l'on fait ici et la définition des champs que l'on explore à longueur d'années, de semaines, de mois, dans le cadre de la pédagogie. Et puis, bien sûr, dans le cadre de l'exercice des métiers auxquels nous formons aussi. Et puis, il est né de cet appel à contribution sur l'histoire de l'école, encore une fois, cette idée qu'est-ce qu'on fait à Camondo et d'où on vient. Donc, cette année, j'ai vraiment pris la décision de placer le séminaire sous l'éclairage des mots et des choses. Un maigre hommage à Foucault. Oui, Foucault est un philosophe, hein, vous êtes tous au courant. Lisez les mots et les choses, et non pas un présentateur télé. Les mots, ce qu'on dit, et puis les choses, ce qu'on fait. qu'est-ce qu'on fait à Camondo, et puis j'allais dire qu'est-ce qu'on fait et comment on le dit. Cette idée qu'au bout des 8 séances, puisque je vous propose cette année 8 séances du séminaire, d'essayer dans 6 ou 7 mois de pouvoir commencer à définir, et commencer seulement à mieux définir et à mieux dire ce que l'on fait à Camondo. Dire ou mieux dire quels sont les enjeux de la pratique, quelles sont les questions dont on peut s'emparer dans notre école, et quels sont effectivement ces enjeux vis-à-vis de cette production de connaissances. Essayer de comprendre, et à partir du moment où on va essayer de comprendre, on va peut-être commencer à connaître. C'est un peu le programme, il est ambitieux, mais après tout, on a des ambitions à Camondo, on va se faire plaisir. Alors, première séance, j'ai demandé effectivement à Jam Tinel et Evangelos Vassileou, que vous connaissez en tant qu'enseignants, de parler de leur pratique, et sur un thème très simple, mais qui nous concerne tous, l'architecture d'intérieur et le design, les champs de la pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça recoupe dans la réalité, avec deux personnalités ici professionnelles, l'un architecte d'intérieur diplômé de Camondo, l'autre architecte d'intérieur diplômé de Camondo, architecte, les deux pratiquant effectivement à toutes les échelles, et ils vont nous expliquer pourquoi. La deuxième séance sera le 18 novembre, vous pouvez le noter tout de suite, je vais faire passer le calendrier rapidement sur justement le blog recherche, mais aussi sur l'extranet, puis peut-être faire un envoi général par mail. De la théorie à la pratique, ce que j'appellerais le parcours de trois jeunes diplômés cofondateurs d'un collectif, certains d'entre vous les connaissent, le collectif Dante, design, architecture et nouvelles technologies, c'est-à-dire Paul Marchessault, Johnny Rabinès et Vladimir de Lantivy, qui ont accepté, entre 1000 occupations, de venir nous parler un peu de leur démarche, à la fois vis-à-vis de la théorie, des idées, des concepts, mais aussi dans leur pratique. Ils ont été diplômés en 2013 et 2014, tous les trois, et ils viendront nous raconter un petit peu ce que ça peut donner, ce que ça peut, comment finalement cette démarche dans le monde des idées a nourri leur positionnement en début de carrière. La séance du mercredi 9 décembre, nous parlerons d'architecture automatique, c'est-à-dire en fait les outils numériques dans la conception. La question des outils numériques dans la conception, là on va monter une petite table ronde en mettant en vis-à-vis un historien de l'architecture, mais que vous connaissez vous comme prof de représentation, c'est-à-dire Christian Morandi, qui a fait sa thèse sur les outils numériques et l'apparition des outils numériques dans les écoles d'architecture, avec cette idée absolument improbable que, et c'était l'objet de sa thèse, que dans les années 60, on a introduit l'ordinateur dans les écoles d'archi pour faire de l'architecture une science exacte. Ça n'est pas rien. En face, on va avoir Philippe Miraillet, que vous connaissez aussi, qui lui pratique au quotidien l'utilisation du numérique dans la conception. Qu'est-ce que ça représente? Où sont les interrogations, les questions et où sont les problématiques? Au deuxième semestre, je vous signale tout de suite que les séances auront lieu le mardi soir et le 26 janvier, nous aurons la chance d'écouter Valérie de Calignon. Valérie de Calignon est une diplômée de l'école Camondo. Margaret, je ne crois pas me tromper en disant qu'elle était... Vous étiez dans la même promotion? D'accord, vous étiez un peu en décalé. Valérie de Calignon, qui a entrepris une thèse d'histoire de l'architecture, d'histoire de l'art, pourrait-on dire, sur la question de l'intériorité. C'est-à-dire que c'est actuellement le seul chercheur, à ma connaissance en France, qui travaille sur l'histoire de la profession. Qu'est-ce que l'architecture d'intérieur? Alors, elle viendra parce que sa position de thèse concerne principalement la période des Trente Glorieuses, les années 40 à 70. Mais elle m'expliquait que, effectivement, si elle a beaucoup de choses sur les années 40 à 70, elle a 3 siècles d'histoire derrière. C'est assez intéressant de voir et de l'écouter sur cette mise en perspective. Le 9 février, nous aurons la joie d'écouter ou de participer à un débat entre Thierry de Beaumont et Fabien Petiot. Thierry de Beaumont et Fabien Petiot, que vous connaissez aussi. Alors, vous voyez comment on utilise beaucoup les ressources locales cette année, qui vont parler de la relation entre design et métier d'art. Design et artisanat, design et métier d'art, je les laisse démêler cet imbroglio puisqu'ils sont déjà en désaccord complet sur la définition et sur les mots, comme quoi c'est extrêmement compliqué de savoir de quoi on parle et quels mots on utilise et ce que ça recouvre comme réalité. Le 22 mars, Claude Courtecuisse, qui nous fera évidemment l'honneur de venir nous parler d'un travail en cours. Travail en cours qui nous intéresse fort parce qu'il s'agit d'un exposé sur la Villa Cavrois de Robert Malestevans, entre autres sa récente restauration et restitution à l'identique, mais avec cette idée d'un regard détaillé sur une conception globale. Robert Malestevans dessinait tout, concevait tout, de l'espace jusqu'au détail, et Claude nous fera un exposé à ce sujet qui est un... un exemple, c'est, pour le coup, c'est un cas d'école relativement intéressant pour voir quelle est effectivement une démarche qui traite de l'ensemble de l'espace jusqu'à l'objet, jusqu'au décor, et le tout évidemment produisant des ambiances tout à fait particulières. Le mardi 19 avril, Emmanuel Benet, là aussi un nom que vous connaissez, Emmanuel Benet viendra nous parler du métier et de la profession d'architecte. Aujourd'hui, il y a des enjeux sur l'architecture, sur le diplôme, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre, la chémo, et la question du positionnement aujourd'hui des métiers d'architecte. Emmanuel nous en parlera à la fois dans une dimension d'actualité, et peut-être que je mettrai mon grain de sel sur la dimension historique, c'est-à-dire ce qu'est un architecte au 19e siècle, la profession libérale. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Enfin, le 10 mai, et là ce sera le clou du spectacle, on va intervenir, Bertrand Hérard et moi-même, donc là il va falloir bosser un peu, ça s'intitulera tout simplement, ou à peu près, ce que l'on sait aujourd'hui de l'histoire de l'école Camondo. On se laisse 6 mois pour déblayer le terrain et commencer effectivement à construire une histoire de l'école, une histoire de sa pédagogie. Je pense qu'on ne sera pas beaucoup avancé, puisque pour tout vous dire, les documents manquent aujourd'hui, les archives ont en grande partie disparu. On a des bribes, on a des morceaux, on a des fragments, mais on va essayer avec Bertrand de recoller les fragments pour vous présenter le 10 mai un état des lieux de cette histoire, et ce qui nous permettra de reparler finalement de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire de la nature à la fois de la formation, des mots, des choses, ce que l'on fait et comment on le dit. Voilà, je crois que vous avez maintenant
merci
la parole.
Merci pour cette introduction.
Longue. Et
très agréable.
Je ne sais pas lequel des deux va commencer.
C'est
mais James. Jam, tu y vas, on t'écoute.
Non, moi je voulais réagir très vite quand même.
Vas-y, oui, oui, c'est le moment, jamais.
Oui, un peu à vite parce que ce n'était pas du tout préparé. Je ne savais pas que tu allais parler de tout ça. Mais c'est très intéressant parce que ça situe quand même, entre autres, le problème de notre métier, de notre discipline, de notre domaine. Parce que tu as parlé de LMD, tu as parlé de cette évolution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question comment introduire la question de la recherche dans le domaine des arts appliqués. Mais le problème se pose aussi dans les écoles d'architecture. Parce que l'architecture, comme l'architecture intérieure ou le design, pour moi, c'est la même discipline finalement. Et on va parler de ça tout à l'heure. Pose un problème, c'est que ce n'est pas de l'art, ce n'est pas de la science. Donc comment aborder un travail de recherche? Parce que quand on fait des études, là, on étudie, on apprend des choses, mais déjà, la question du master, c'est pas évident. Avec l'architecture, c'était facilement résolu parce qu'on s'est dit, tiens, les 2 dernières années qui sont un peu plus spécifiques, c'est le master. Et on va écrire 2 mémoires en plus et ce sera plus ou moins fait. Mais un doctorat en architecture, c'est quoi? Ça tourne toujours autour de l'histoire, sinon des nouvelles technologies, ou sinon... Non, mais autour d'autres choses. Mais de toute façon, c'est toujours par rapport à quelque chose. L'architecture, on va pas l'étudier. Et donc, je pense aussi l'architecture intérieure, le design, toute seule. Donc, ça veut dire quelque chose par rapport à notre, je pense, notre domaine. Et c'est, je pense que c'est ça qui le rend aussi quand même intéressant et excitant. C'est que, bon, on est entre nous, je trouve qu'on est dans quelque chose de très spécial.
De très spécifique.
Spécifique, spécial. Et à part...
Après, en architecture, aujourd'hui, dans les écoles d'architecture, on sait ce qu'est un doctorat. C'est-à-dire que le premier doctorat en architecture a été soutenu en France en 2006, qui était à Versailles, qui était encore effectivement un doctorat qui avait encore un caractère d'histoire, ça c'est évident, mais pas que. Ça a été une aventure assez, assez étonnante. Hein. Le doctorat en architecture n'existait pas. Préalablement, jusqu'en 2006, la première soutenance, ce qui veut dire que le travail a été commencé 4-5 ans avant. Ça a été un des débats très importants, là, Dominique en témoignait aussi, dans les écoles d'archi. Et les écoles d'architecture nous donnent un modèle, en tout cas, entre pratique et théorie, entre conception et théorie, il y a un modèle qui peut être intéressant à suivre en termes de recherche. Et c'est vrai que ça pose quand même la spécificité. On peut aller jusqu'à se dire qu'un doctorat en art appliqué, ça n'a pas de sens. Et certains sont allés jusque-là. Et effectivement, la question...
Je me pose la question, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, pour finir, mais ça me concerne que moi, nous, aujourd'hui, on fait partie des arts appliqués, mais pourquoi? C'était une décision à un moment donné, mais...
Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu plus de décibels.
Ah, moi? D'accord. Ouais.
Merci.
Non, les arts appliqués, parce que en Italie, le design ou l'architecture intérieure est enseigné dans les écoles d'architecture. Donc, il y a aussi cette question-là de l'enseignement, c'est qu'à un moment donné, on enseigne, on décide d'enseigner ces disciplines-là dans des écoles d'art, et en fait, ça devient des écoles d'art appliqués. Mais souvent, du coup, il y a la dérive du côté pratique, du côté appliqué. Justement, donc encore plus difficile de parler des recherches et de parler aussi de rapport entre théorie et pratique. Et voilà. Et James ?
James ?
James ?
Jean ?
Alors, à la demande d'Alexis, on nous a demandé effectivement de venir présenter peut-être des exemples de projets qui se situe un peu à la frontière de l'enseignement qu'on a reçu à l'école. Ouais. On a tous les deux fait Camando. Donc c'est vrai que peut-être que dans le travail qu'on va vous présenter, on va retrouver un petit peu de ce qu'a fait la pédagogie de l'école ici. Et ce que je voulais, c'est présenter moi deux projets qui sont assez emblématiques de projets que pourrait faire n'importe quel étudiant en sortant de l'école, qui ne s'applique pas spécifiquement à de l'habitat à l'intérieur, mais qui touche des territoires comme la scénographie, enfin là en l'occurrence de la scénographie et un lieu commercial. Comme tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que moi je ne considère pas, alors c'est peut-être aussi une déformation de l'école, qu'il y a une vraie séparation entre le design et l'architecture d'intérieur, en tout cas dans ma pratique. C'est vrai qu'Emmanuel, lui, Emmanuel Bénet, puisque j'étais associé assez longtemps avec lui, et architecte en plus, il a prolongé, donc lui, il a effectivement... Mais nous, par rapport vraiment typiquement à la formation qu'on a eue ici, je pense que, et ce que je vais essayer de démontrer dans les exemples que je vais vous montrer, c'est que ce qui nous fait basculer à un moment dans ce qu'on appelle le design par défaut, c'est peut-être la notion du détail, et en tout cas le zoom ou le grossissement qu'on va faire dans certaines parties de projet qui vont nous permettre vraiment de passer du gros œuvre à des choses beaucoup plus précises. Donc pour ça, je vais vous montrer ce premier projet qui était dans le cadre de l'exposition universelle de Aichi en 2005, qui commence à dater un petit peu, pour lequel... Louis Vuitton était invité à présenter un pavillon dans le pavillon de la France. Donc voilà, pour résumer un petit peu l'exposition universelle, ça c'est juste pour vous faire le cadre un petit peu du projet. Le thème était la sagesse de la nature. On partageait un pavillon avec l'Allemagne dans une maison commune. Et dans la partie française, il y avait 6 îlots qui présentaient 3 entreprises d'assaut. Vuitton, qui devait présenter son bilan carbone et sa production, et l'usine Toyota. Donc très attendu au Japon, parce que Vuitton et les Japonais, c'est une grande histoire. Et puis il y avait 3 collectivités locales, Angers, Dunkerque et Chalon-sur-Saône aussi, qui présentaient dans le cadre plus large de la ville, de l'humanité, des bilans aussi carbone. Donc le pavillon de la France tel qu'il se présentait. Alors, il n'y avait pas de réel pavillon à cette exposition universelle, c'était des hangars où on était un petit peu... Donc le cadre général, c'était une enveloppe qu'avait produit Sylvain Dubuisson, qui est un ancien... Je ne sais pas s'il est étudiant de Camando aussi, ou en tout cas il a enseigné des années.
Il a enseigné des années ici.
Je crois qu'il a fait les Arts Déco.
Oui, ouais. Les Arts Déco. Donc voilà, donc Sylvain Dubuisson, qui était encore presque enseignant quand nous on était là, ouais. Qui avait donc été, qui avait été donc consulté pour faire l'intérieur, en tout cas l'enveloppe à l'intérieur du pavillon de la France. Donc c'était pas très extraordinaire, c'était une genre de coque, c'était surtout une peau au plafond et voilà, c'était un environnement un peu vaporeux rouge. Et alors ça, c'est le plan tel qu'il nous a été fourni au départ, donc de l'aménagement à peu près général du pavillon, et nous, notre emplacement qui était donc délimité et qui était dimensionné, quoi. Alors, ce qui est intéressant par rapport à notre pratique, c'est qu'on est amené dans ce type de projet à rencontrer un client qui, avec toute sa spécificité, donc en l'occurrence Louis Vuitton, enfin et LVMH. Donc vieille maison, je vais pas m'étendre sur sur Louis Vuitton, on connaît tous. C'est pour ça que j'ai mis un organigramme juste pour résumer ce qu'était le groupe LVMH dans sa globalité. Voilà, avec ses petits milliards de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et donc voilà, donc la demande était de produire un petit pavillon. Donc on avait travaillé avec Emmanuel sur on avait fait une demande de bourse un petit peu auparavant de ce projet où on avait proposé de travailler avec Le Sel. Je vais faire un peu les choses dans le désordre parce que tout ce type de projet, tout arrive un petit peu en même temps et on pioche un peu à droite à gauche. Et voilà, et il nous avait semblé intéressant de retravailler avec ce matériau, enfin ce matériau, même c'est même pas un matériau, c'est parce que justement dans le cadre du développement durable et de la thématique de l'Expo universelle. C'était un matériau complètement naturel et qui avait aucun ajout. Donc en plus c'était une ressource intarissable, une exploitation non polluante s'il y en a, mais a priori voilà. Et en fait tout était parti des blocs de sel qu'on vend pour donner aux animaux. Ce sont des blocs de 5 kg à peu près. Il y a différentes formes. Et globalement, ça reste assez similaire à celui de gauche. Et donc, ils sont placés comme ça sur des présentoirs pour que les animaux viennent lécher le sel. Donc, c'est uniquement fait de sel. C'est du sel sous pression. Je vais en reparler un petit peu après. Mais il n'y a aucun ajout pour le rendre bloc. Alors, j'ai eu des petits exemples. Donc, voilà, ça se présente comme ça. On en trouve chez Decathlon, on en trouve partout.
Chez Decathlon, pourquoi les sportifs lèchent du sel aussi?
Non, les sportifs, oui, non, mais je crois qu'on en a un petit peu moins dans le. Mais ça oblige les bêtes à boire, en fait, de lécher les. Ça leur donne soif. Donc voilà, ce matériau, il nous intéressait. Et donc, la première chose qu'on a fait, c'est de trouver l'industriel qui le fabriquait. Donc, ça, c'est encore une fois tout ce que je vais présenter dans ce projet. C'est quelque chose que, déjà, on demande souvent à nos étudiants de faire en cours, dans le cadre de leur projet, mais aussi, c'est pas pour rien qu'on leur demande, c'est que ça nous arrive après de le faire dans la réalité, dans la vraie vie, comme on dit, après. Donc, évidemment, en se rapprochant des syndicats, du sel et tout, on est tombé sur les salins, qui est un peu à l'image de LVMH, le groupe LVMH du sel. Donc, les salins, qui s'appellent aussi les salins du midi, et qui produisent à peu près tout ce qui se fait en sel en France. On en a tous chez nous. Alors, ce qui était assez intéressant déjà dans la démarche, c'est qu'une fois qu'on a rencontré à Paris ces personnes, elles nous ont tout de suite envoyés en Lorraine, à Nancy, où ils ont des mines de sel. Et donc voilà, déjà dans le cadre du projet, c'était intéressant de passer de Vuitton à des mines de sel et tout ce que ça peut représenter dans un territoire en Lorraine. Donc voilà l'endroit où on est arrivé. Donc pour situer un petit peu ce qu'ils font, c'est vrai qu'il y a encore une énorme exploitation de mines de sel là-bas. Donc ce sont des mines, comme on peut voir, hein, on creuse... Et ils produisent en gros tout ce qui est sel de table, le sel pour le dessalage, et en général les mines de sel servent surtout au dessalage des routes et des routes. Et puis tout ce qui est les salins dans le Midi, en Camargue, eux sont pour la production du sel de table. Alors l'usine, il me reste très très peu d'images. Alors, c'est un peu le problème aussi de ce projet, c'est que j'ai très peu d'images, plus voilà, de ce qui s'est passé à l'époque, parce qu'on a grillé un disque dur avec tout dessus. Et donc j'ai essayé de retrouver à peu près les machines telles qu'elles se présentaient dans l'usine. Donc c'est des énormes presses en fait, tout simplement, avec des matrices qui sont en général rondes, carrées, et il y en a un petit peu, je vous montrerai après un exemple de bloc. Et elles ont la spécificité toutes d'avoir un trou. Alors on peut en trouver sans trou, mais c'est voilà, c'était pas évident. Donc nous, notre contrainte quand on est arrivé là-bas, déjà pour savoir ce qu'ils pouvaient produire comme matière première, c'était des gros blocs comme je vous ai montré avant, comme ça, avec un trou et un diamètre défini. Et déjà, dès cette première rencontre, on a tout de suite compris que les manipulations, en tout cas la flexibilité qu'on allait avoir avec ces machines, étaient très faibles, puisque déjà, eux, n'ont aucun intérêt dans leur vie de tous les jours de produire autre chose que des blocs de sel. Et de modifier les matrices, il n'en était pas vraiment question, puisque on n'avait ni les moyens, ni les moyens, on va dire, pour résumer. Sachant qu'après, on verra que quand même, eux ont su tirer parti de toute cette affaire avec LVMH. Donc, la deuxième étape qui nous arrive aussi fréquemment, c'est de créer un genre de partenariat entre les deux, puisqu'on avait besoin de l'outil industriel des salins du Midi pour produire déjà les bribes de projets qu'on avait en tête. Et on avait Louis Vuitton qui, lui, avait dans ses capacités la possibilité de financer et de trouver un intérêt commun avec les salins pour produire les éléments qui allaient servir à la construction du pavillon. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces images un peu contradictoires. C'est de faire travailler Louis Vuitton avec des mines et de faire travailler les salins avec l'univers de la maroquinerie et du luxe.
En plus, ça, c'est pour un chien.
Ouais, j'ai choisi exprès. En plus, ça faisait un petit truc un peu décalé, en plus, pour transporter son chat. Donc, les premières pistes, alors comme je vous ai dit, il me reste très peu de documents. Évidemment, l'idée de la malle, puisque Vuitton est maltier dès ses origines, et vu la forme, la configuration de l'élément qu'on avait à produire, nous a amené assez rapidement, en tout cas formellement, sur une boîte et en tout cas une malle, comme un écrin qui allait contenir un peu ce que Louis Vuitton allait communiquer pour son bilan carbone. Donc la première idée, c'était de faire une boîte lumineuse et voilà, qui cachait à l'intérieur le contenu. La deuxième idée, c'était un passage, puisque en fait tout le pavillon fonctionnait par un parcours. Donc l'idée, c'était aussi de traverser notre pavillon. Alors les premières pistes étaient donc une boîte lumineuse. C'est allé assez vite sur une boîte lumineuse. On cherchait un matériau, donc c'est pour ça que le sel est arrivé assez vite. Là, il n'y était pas encore quand on produisait ces images. Bon, l'idée, c'était de produire juste un élément qui allait jouer sur la lumière avec des épaisseurs, plus ou moins qui allait refaire ressortir l'identité de Louis Vuitton. À cette étape-là, pour la petite histoire avec Sylvain Dubuisson, ça s'est très mal passé parce que il était quand même malgré le fait qu'il fasse que l'enveloppe extérieure, il voulait avoir un peu son mot à dire sur chacun des pavillons. Et il a hurlé. Mais quand je dis hurler, il a hurlé dans notre bureau vraiment en disant que c'était honteux et tout. Bon, effectivement, c'était le début des recherches, c'était pas encore très recherché. On était aussi très liés à l'espace des ventes, voilà, c'était des vitrines, les premières pistes. On était très très liés à de la boutique. Et puis l'intérieur, qui lui a pas trop changé, donc restait un parcours avec un genre d'élément de projection qui passait des images et du contenu. Dans un univers entièrement en miroir, donc qui allait se refléter dans tous les sens. Bon, c'était les images de très 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 haute qualité de l'époque. Alors ça, c'était une autre piste qu'il y avait eu à un moment sur effectivement quand on a commencé à travailler sur le sel, de se demander si on pouvait pas faire modifier un peu les matrices et jouer sur un élément de. On allait faire glisser des briques sur le. Alors, en parallèle à ça, c'est vrai que le motif de Louis Vuitton, on s'est tout de suite plongé. Donc ça aussi fait partie des éléments qu'on transmet en cours pour enrichir le projet et puis essayer de travailler aussi graphiquement autour du projet. Donc, juste pour rapidement, le monogramme de Louis Vuitton fonctionne toujours sur des cercles qui s'enchevêtrent. Et les deux principaux étant celui-là et celui-là.
Tangents.
Hein ?
Qui sont tangents.
Qui sont tangents, toujours, oui. Et qui se. Bon, c'est très régulier. Mais bon. Donc, la première piste a été de travailler justement sur ces deux éléments et d'essayer de voir comment on pouvait retravailler. Alors, toujours pareil, puisqu'on était déjà dans l'idée de travailler avec les matrices, on savait qu'on avait un moule rond, donc c'est vrai que le rond nous intéressait à plus d'un titre. Donc des recherches de motifs. de superposition, puisqu'on savait qu'on allait aussi avoir un matériau transparent, enfin translucide, qui allait pouvoir jouer sur ses épaisseurs et qui allait être rétroéclairé. Et du coup, voilà, donc les deux éléments, en tout cas, de l'identité qui allait ressortir du pavillon. Donc le démultiplié qui commence à créer du motif, et en tout cas ressortir le... Alors, les premières images, du coup, les premières ébauches étaient sur ce même fonctionnement graphique qu'on a vu avant, qui était un tuilage de disques dont les superpositions allaient créer le motif. Alors ça, je les ai mis parce que à l'époque l'appareil numérique s'il existait un petit peu, mais bon, j'ai retrouvé des vieux polas où on avait fait des tests de tuilage différents. Bon, j'avais beaucoup d'autres, mais ils sont tous flous. Alors voilà, j'ai mis ceux-là qui pouvaient provoquer aussi, au-delà du motif qui est celui-là qu'on a gardé de tuilage, pouvaient aussi créer d'autres, tout en gardant les mêmes surimpressions d'opacité, pouvaient créer d'autres textures. Donc le prototype, là, il s'est fait vraiment en lien avec les salins du midi. Les salins, la seule modification, et c'est les éléments que vous avez là, en tout cas, c'est la petite briquette qui nous ont... vous avez peut-être tourné encore. Voilà, celle-là, c'est le seul élément qu'ils ont pu nous faire le plus fin, en fait, toujours dans leur matrice circulaire. Donc ça, c'est un bout de... c'est tout ce qui reste de ce pavillon. C'était l'élément le plus fin qu'il pouvait faire. Alors, quand on le regarde de profil, il a déjà des épaisseurs qui ne sont pas égales d'un côté à l'autre. Et il pouvait nous enlever le trou. Et on verra après qu'il pouvait aussi nous réaliser les deux petits trous qui vont servir après à fixer la plaque. Donc, en fait, la taille était définie, l'épaisseur était aléatoire, le diamètre était plus ou moins juste quand même. Et... ça faisait partie des éléments qui allaient entrer dans la conception aussi du pavillon. Ce qui montre cette image aussi, c'est que ce qui était intéressant, et là on va toucher aussi la trame, qui était des sujets qui reviennent souvent dans l'éducation à Camando, en tout cas dans la pédagogie, c'est que l'avantage du motif aussi régulier nous permettait aussi de commencer à réfléchir à l'accrochage et à la façon... la plus rationnelle qu'on allait avoir pour construire tous les éléments qui allaient être cachés derrière et qui allaient accrocher les tuiles. Et en même temps, qui allaient nous permettre d'intercaler les éclairages qui allaient éclairer en contre-jour. Alors, il y a... ce projet, il est intéressant à plus d'un titre parce qu'il amène plein de choses un petit peu dans tous les sens, et en particularité aussi le fait que les accroches se situent dans les parties les plus superposées, et du coup seront invisibles après en contre-jour quand on verra le pavillon de face. C'est-à-dire qu'à la fois cette superposition nous permet de créer le motif, mais nous permet aussi de cacher les ombres que pourraient créer les points d'accroche. Donc le prototype, il avait été réalisé à l'époque avec des disques, ils nous avaient fabriqué une dizaine de disques, on avait collé des genres de crochets qu'on avait récupérés. Le principe des échelles sur lesquelles allait se fixer, et du coup, aidé par la régularité, nous permettait de faire vraiment des échelles très très régulières. L'éclairage allait s'intercaler entre les deux. Donc ça, c'est une photo du prototype qu'on avait fait à l'époque. Donc les tuiles qui nous avaient fabriquées avec les trous définis, les petites pattes d'accroche, et voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe derrière.
Et ça, c'est le motif. Hein ? Comment tu collais les pattes ?
Elles ne se collaient pas, il y avait un petit trou et c'était des petites pattes qu'on avait trouvées en plastique qui se rentraient dans le trou et qui créaient une petite boucle. Ah, d'où les peignes qui sont très fins, qui étaient juste pour pouvoir accrocher le diamètre de la petite pièce qu'on avait trouvée. Et donc, l'effet visuel vu de face qu'on obtenait. Alors après, bon, j'ai passé rapidement sur les plans, donc ça c'était plus pour l'organisation, pour vous montrer. Mais par rapport à ce projet-là, pour montrer qu'ici, on est dans un cadre, pas de gros œuvres vraiment construit. Donc on est vraiment dans un cadre presque de stand ou de muséographie. Et que du coup, on a une beaucoup plus grande maîtrise des dimensionnements et des épaisseurs. On travaille avec des bureaux d'études qui nous permettent quand même, et qui plus est quand on fait un tuilage comme ça, de maîtriser parfaitement ces cotes. puisque chaque millimètre de chaque tuile, en fin de tuile, ça fait 30 cm de décalage. Donc on avait besoin de jouer à la fois sur la flexibilité de l'aléatoire de nos plaques fabriquées en sel et à la fois d'essayer d'obtenir une vraie régularité dans la construction. Bon, ça c'est juste pour montrer le petit élément qui était au centre, mais qui peut aussi rentrer dans le cadre de ce qu'on fait à Camando aussi, puisqu'on nous a... aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès dans les rétroprojecteurs, mais à l'époque ça venait tout juste de sortir. C'était des rétroprojecteurs qui éclairaient vraiment très proche et avec un rayon sans déformation et qui permettait de jouer sur quatre faces et de faire tourner des images. Donc le pavillon tel qu'il s'est retrouvé à la fin, alors encore avec un logo là qui a été enlevé par la suite, où on a assumé juste le fait de garder que le motif et de plus jouer du tout sur l'identité, ce qui était, je crois dans ma mémoire, un choix un peu commun, même de LVMH, de la jouer aussi un petit peu vraiment dans la retenue, si c'est possible. Donc les échelles, les tubes, une coupe, tous les éléments. Alors ça aussi c'est intéressant, c'est qu'on se dit qu'il n'y a que des pièces rondes, mais en fait il a fallu créer tous les éléments, c'est à peu près tous les éléments qui sont faits pour pouvoir composer complètement le pavillon, en l'occurrence surtout pour les parties hautes et les parties basses et les angles qui posaient problème. La construction avec... Alors, ce qui s'est passé entre temps, c'est qu'il y a eu aussi énormément d'études hydrométriques parce qu'on travaille au Japon. Ça devait rester accroché 6 mois, donc ça a aussi fait peur à beaucoup de monde parce que le sel, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va se désagréger, est-ce que les tuiles vont tomber. Donc c'est vrai qu'on est rentré dans pas mal de questions. Donc il y a beaucoup de tests qui ont été faits sur les tuiles juste pour savoir si, d'un point de vue hydrométrique, elles allaient juste tenir le choc.
Si elles n'allaient pas fondre, ouais.
La construction toujours avec les petits japonais qui construisent le bloc étant et puis le pavillon fini. Donc alors il me reste très peu de photos aussi de ce pavillon.
Il y a 2000 pièces quoi.
Ah ouais, il y en a un peu plus. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment un projet à mon avis qui montre que on peut partir de mine de sel et se retrouver à gérer après du détail pour une maison de luxe qui en fait son fonds de commerce. Quoi. Donc en ça, je trouvais qu'il est intéressant. Alors j'ai fait un petit truc aussi sur la communication de ce projet. J'ai ressorti quelques articles qui étaient sortis à l'époque pour montrer justement à quel point par rapport à la thématique de notre conférence ce soir, on est justement sur cette double... c'est que quand on regarde là les titres qui traitent de ce projet-là, il y a Intramuros, donc qui est vraiment spécialisé dans le design. Il y a Beaux-Arts Magazine, qui est quand même sur le côté plastique un peu plus. Il y a des magazines de mode. Il y a le Figaro Magazine. Il y a un magazine d'archi. Donc on voit bien que... on est quand même là à une frontière de communication qui ne touche pas simplement le cadre de l'architecture et des magazines qui touchent, on touche à la fois au grand public, à la plastique, au design. Bon, ça, c'est un peu le résumé de tout ça. Bon, je peux peut-être en parler rapidement, mais ça, par rapport au,
à la pédagogie. Moi, j'ai une question. Comment vous avez fait le truc, du coup?
On a un peu triché.
Ah.
On les a collés.
Ah oui.
Mais par contre, on a été obligé de faire des peignes spéciaux pour donc on n'a pas pu et on a collé des spécifiques.
Ah, vous voyez pas.
Non, mais on les a quand même fabriqués, mais collés. Bon, il y a plein de choses qui se sont réglées sur place. Bon, ça, grosso modo, c'était un petit peu ce qui se passe sur la plupart des projets. Hein. C'est tous les intervenants. Louis Vuitton et l'industriel pour lequel il faut faire un partenariat, la conception du pavillon. Enfin, c'est un peu tout ce que j'ai raconté. Hein. Alors je vais essayer d'aller un peu plus vite là pour te laisser un peu de place. Le deuxième projet, lui, il se rentre dans un cadre beaucoup plus, dans le cadre d'un autre type de projet que peut avoir un étudiant en sortant de l'école et qui était un restaurant de vente à emporter à Paris, qui est rue de Chaillot. Et là aussi, qui va toucher plusieurs points. Alors lui, il est beaucoup plus lié aux grosses œuvres, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant. Alors je vais faire un peu de pédagogie, parce que surtout pour les étudiants, par rapport à comment on conçoit aussi un projet. La première rencontre, le lieu, donc il était comme ça quand on l'a trouvé. C'est souvent ce que vous allez trouver dans votre vie future. Donc je vous les passe rapidement. Avec toutes les contraintes que ça peut avoir déjà, des escaliers, des niveaux, des poutres. Donc l'appropriation. Alors assez rapidement, un projet, ça commence par un relevé. On en fait des plus beaux que ça aussi, hein, mais c'est déjà une première façon de rentrer dans le projet. Non, mais c'est déjà, en fait, dès qu'on commence un projet, et c'est pour ça qu'on vous oblige aussi à vraiment vous ancrer dans le réel et à produire des plans, mesurer les choses et savoir, c'est que c'est déjà une façon de rentrer dans le projet, de le relever, de le connaître. Alors les bases, bon, encore une fois, cette fameuse idée dont on parle souvent avec nos étudiants qui cherchent à tout prix une idée pour commencer un projet. Nous, il était parti sur la vente à emporter, le côté jeter des choses du paquet qu'on allait acheter et puis qu'on allait jeter une fois qu'on avait mangé ce qu'il y avait dedans. Les premières recherches, donc du croquis, hein, comme vous, hein, nos chers petits étudiants. Et déjà des bribes de froissés qui commencent à apparaître dans les dessins. Des aussi bribes de mobilier qui vont arriver après et qui vont être assez spécifiques par rapport à la demande qui nous est demandée de réfrigérer aussi des éléments et de les vendre et tout ça.
Arriver
après dans la présentation.
Je pense tout de suite au mobilier.
Ouais, oui, c'est pour ça que j'ai mis tout de suite un plan parce que c'est très très vite en fait et encore plus aujourd'hui. On nous demande d'accélérer énormément la production, et qui plus est par rapport à la production des images 3D, qui pour être construites sont obligées d'être sur une base de code réel. Donc aujourd'hui, on se retrouve, quand moi j'ai commencé mon métier en sortant de Camando, on faisait un APS et des esquisses, on va dire, de façon assez normale. Aujourd'hui, on est quasiment en phase de projet, avant-projet détaillé, voire DCE, dès les esquisses, puisqu'on nous demande très vite des images. Ouais. Et que la base d'une image 3D, c'est de pouvoir lui rentrer des cotes. Donc déjà, savoir ce qu'on va faire comme projet. Donc ça aussi, c'est une particularité sur laquelle il faudrait beaucoup débattre. On en parle un petit peu avec les étudiants, mais qui fait qu'aujourd'hui, la vitesse de projet s'est accélérée et qu'on a du mal à suivre. Donc très vite, un plan ressort. Alors là, vous voyez pas grand-chose, mais il y a un plan qui est assez précis. Et les premières images, du coup, de présentation du projet, qui était donc un espace complètement froissé, qu'on savait pas encore trop comment on allait faire, et si même on allait avoir le budget pour le faire. Alors, ce qui se passait aussi, c'est que on faisait à ce moment-là, en fait, c'est un même restaurant, c'est deux programmes qui sont en un, c'est que par les sous-sols, ça communiquait avec un autre restaurant qui est très très chic, avenue Pierre Ier de Serbie, dont personne ne savait que la rue de Chaillot était la même entité, mais ils avaient les mêmes cuisines en dessous. Et du coup, c'est vrai qu'on avait un restaurant qui était tout noir. On se partageait un peu le projet avec Emmanuel. Il y avait un projet qui était très noir et très haut de gamme et très chic, et un projet qui était très blanc, très froid pour de la vente à emporter, beaucoup plus... Alors, vérification, bah, là, c'est tout le cadre après du projet, et c'est en ça que ce projet-là, moi, il m'intéresse de vous le présenter, c'est que on part de gros œuvres et on va appliquer à ce gros œuvre une peau qui, elle, va être construite en dehors du chantier, qui va venir, en général, s'installer dans le chantier une fois que tout le projet va être déjà bien, bien avancé et va devoir s'incorporer directement dans le projet, sans, on l'espère, qu'il y ait trop de problèmes. Donc, commencer un projet, c'est déjà arriver à le communiquer à l'entreprise avec qui on va travailler. En tout cas, ne serait-ce que pour le faire chiffrer auprès de plusieurs entreprises. Donc là, on ne voit pas très très bien avec la projection. On a trouvé un système sur la base d'un hexagone régulier qui nous permettait donc de créer comme une ruche d'abeilles, en tout cas une surface régulière. Et la seule chose qu'on a produit, en tout cas au début sur les éléments, c'est qu'on a décentré le sommet des petits volumes qu'on avait créés. Hein. Donc l'hexagone est toujours régulier à l'extérieur. On a déplacé le sommet et il y en a qui sont entrants et d'autres qui sont sortants. Et après, on s'est dit qu'avec bon, plus les éléments d'angle, mais ça j'en parlerai après, que tous ces éléments-là mis dans le désordre en avant, en après, créent une aléatoire qui n'arrive plus à se lire après dans la quand on va construire la peau. C'est-à-dire qu'on ne verra plus la trame qui a été à l'origine. Mais encore une fois, c'est un projet qui part d'une trame parce que il faut qu'on puisse le produire, il faut qu'on puisse réaliser les pièces, et il faut qu'elles puissent se monter et qu'elles puissent rentrer au centimètre. Donc ça, c'est tous les éléments qui ont été produits pour expliquer un petit peu au client, mais surtout pour expliquer à l'entreprise ce qu'on voulait. Et déjà, nous aussi, voir le nombre de pièces différentes qu'on allait avoir et comment on allait pouvoir les composer et comment on allait pouvoir faire tous les types de virages du projet qui allait venir par la suite. Donc le quantitatif, un développé de la pièce, puisqu'elle allait être faite en tôle, on le verra après. Et les premières images, donc c'est à peu près ce qui allait être. Alors on le voit là un petit peu, les hexagones ils sont parfaitement réguliers, mais le fait de changer de sommet, de les avoir en rentrant et sortant, fait qu'à la fin, on a l'impression que toutes les pièces sont complètement aléatoires. Donc il y a un gros travail de dessin, enfin en tout cas de réflexion sur cette trame et la façon dont on va la composer. Bon, plus après toutes les ouvertures qui nous étaient imposées, on avait un escalier qui descendait, il y avait des éléments qu'il allait falloir faire rentrer, on avait un monte-plat. Donc tous ces éléments qui allaient devoir être habillés après. Alors aussi des tests de grosseur, est-ce qu'on peint le mur derrière, est-ce qu'on le peint pas, est-ce qu'on a une trame de trous plus grande ou moins grande sur le... Et donc tous les effets que ça peut produire, des effets de transparence, en tout cas de début de transparence. Pour la petite histoire, on avait vendu un peu ce projet au client en lui expliquant qu'il allait faire des économies sur le gros arbre. Qu'en fait, on allait laisser tout brut derrière la peau et que c'est juste la peau qui allait tout faire. Et en fait, c'est pas du tout passé comme ça. Alors pour la deuxième petite histoire aussi, ce qui est assez marrant, c'est que quand on a fait chiffrer ce truc-là, l'entreprise qu'on a fait chiffrer était quand même une grosse entreprise, mais qui venait de faire Roissy qui s'est écroulé là. C'était une des entreprises qui avait créé le... Ah oui. Voilà, donc ils étaient un peu stressés à cette période-là. Et quand ils ont vu l'ampleur de ce truc à construire, ils ont surchiffré complètement ce projet en espérant vraiment réellement que le client le refuse, en se disant on va répondre à la demande, mais de toute façon ça sera trop cher, ils le refuseront. Et ce qui s'est passé, c'est que pour une fois, on a eu un client qui était un petit peu qui en voulait. Nous, on a eu un argumentaire qui a été assez fort, et le client a validé le projet. Donc, ils se sont retrouvés à devoir faire ce projet un peu contraint. Et voilà, ils n'avaient pas, c'était pas très à l'aise. Donc, toutes les images qui sont produites au départ, l'image qui est l'image là, qui commence à être vraiment l'aménagement qui va être définitif. Avec la peau principalement, le plafond, qui est un plafond classique, mais sur laquelle on a essayé de trouver des liens aussi entre les trames, et puis un mobilier donc qui intègre tous les plats réfrigérés, donc d'eau de vue, le mobilier. Alors, ouais, ça fait partie des documents, voilà, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui servent à discuter aussi avec l'industriel qui va fabriquer. Donc, c'est un peu les mêmes qu'on a vu avant, mais de façon plus graphique et plus claire. Où là, on met vraiment au point toutes les pièces spécifiques et qu'on essaye déjà de trouver des économies. Donc, grosso modo, c'est là la représentation de toutes les pièces différentes qu'il y a par couleur. Bon, le plan, j'avance vite. Hein, le plan. Sur lesquels, donc, si je les montre ces plans, c'est pour montrer quand même que tout ça se passe dans le cadre d'un chantier et que le chantier il avance quand même de l'autre côté aussi. On n'est pas juste sur un habillage de peau, il faut aussi s'occuper de tout ce qui est des raccordements, de la plomberie, du gros œuvre, d'une manière générale, de l'électricité et tout. Et c'est en ça que, encore une fois, je pense que ce type de projet il est à la frontière des deux, puisque il nous impose quand même. De respecter un grand nombre de données de gros œuvres pour pouvoir intégrer après un élément qui est complètement indépendant à l'architecture. Donc tous les plans, je passe assez rapidement pour arriver. On voit rien en fait du tout sur l'écran là. Les négociations, donc j'en parle aussi vite, tous les plans là du coup qui reviennent des bureaux d'études, puisqu'après fera partie aussi de votre travail de réceptionner des plans qui vont être retraités par les bureaux d'études et qu'il va falloir valider. Donc il va falloir quand même que vous ayez une bonne connaissance de ce qui vous présente et d'arriver à tenir tête aussi pour garder le projet tel que vous le voulez. Donc ça c'est... Ouais, bon, on voit rien. Et puis le chantier qui arrive. Donc c'est pour ça que... Donc on voit là nos petits... Donc les pièces arrivaient toutes faites. Et il fallait les lier entre elles. Et après, elles étaient fixées. Donc ça aussi a été mis au point, les pattes d'accroche, pour venir après accrocher tous les éléments. Et puis avoir une certaine marge de... pour pouvoir un petit peu donc la peau. Et puis le projet est fini. Donc aussi pareil, les plaques, on a fait fabriquer ces plaques-là exprès pour que le dimensionnement des trous soit assez similaire à la suite. On était obligé de faire filer de façon un plafond.
Vous avez fait sur mesure toutes les pièces d'accroche ?
Ouais. Tout a été fait sur mesure.
Par un serrurier ?
Ouais, enfin, un serrurier, tu aurais vu la taille du hangar. On rentrait un Boeing dans le hangar quand même. Donc c'était quand même pas un petit serrurier de. C'est une très très grosse entreprise. Oui. Alors la date, ça doit être. Parce qu'on l'a fait. Ça doit être à peu près les mêmes années, 2006. Il existe encore. Il existe encore. Et alors, c'est justement la fin de mon truc qui arrive. C'est que quand on a pensé aussi ce projet, l'idée, c'était de produire aussi une image à ce restaurateur qui pouvait être reproductible. C'est-à-dire que ce n'était pas innocent non plus de lui présenter une peau. Je sais que toi, Marie, tu avais travaillé avec Rubin pour Lacoste, qui avait aussi présenté un concept comme ça pour pouvoir se développer dans le monde entier de façon très simple. Bon, nous, l'idée, elle était un peu plus compliquée, mais en tout cas, c'était d'avoir une image de marque, déjà, et de pouvoir la transposer. Et je vous montrerai vite, pour finir, un deuxième endroit, Passage Choiseul, où on a fait un deuxième chai. Donc voilà toutes les photos. Et alors, voilà donc la déclinaison. Donc Passage Choiseul, un autre cadre, un autre endroit, une autre forme. Les mêmes images. On avait un peu progressé en images entre temps. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Ça date... on voit pas très bien, mais ça va être genre il y a 2 ans, ça. Donc toujours les mêmes plans techniques. Donc encore une fois, les plans que nous, on envoie, les plans qui nous sont retournés, les bureaux d'études avec qui on travaille, et puis votre capacité, vous, à valider, à rendre compte aussi des choses... avec un bureau d'études qui en général et donc Passage Choiseul, voilà le résultat, donc le même élément un peu plus petit avec une autre fabrication, un autre fabricant, donc ça a été aussi assez intéressant de refaire faire à un autre fabricant différemment les choses, mais donc voilà. Oui. Oui, l'entreprise qui a fait la serrurerie là était une nouvelle entreprise. L'autre n'a pas voulu recommencer, elle a dit c'est bon qu'on ne le fait plus. Nous, on avait tiré déjà pas mal d'enseignements. Eux, ça les a quand même un peu rassurés de voir que ça avait déjà été fait ailleurs. Ils ont vu comment c'était fait, fabriqué. Ça s'est pas fait aussi bien qu'avec l'autre entreprise. Ça a été un petit peu plus difficile. On avait des coûts un peu plus tirés. Et mais bon, on a réussi à le refaire, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de photos. Voilà.
Merci, Jeanne.
Donc c'est vrai qu'on sait, je pense que toi tu vas faire une intervention, moi je voulais vraiment faire une intervention liée à l'espace et au construit vraiment du gros œuvre ou de la scénographie, ou en tout cas de la, qui pourrait glisser dans la muséographie ou des choses comme ça. Et toi je crois que tu vas avoir un... Enfin, je vais te laisser faire.
Oui, à ce stade.
Pas du tout la réalité. C'est vrai que le premier projet il était très réel. Pour ça, c'est qu'à un moment, on dessine voilà, une trame, on cherche le logo, en même temps, on est déjà dans des questionnements de gros hommes, de normes, de, on mélange un peu tout et on travaille tout un petit peu au même moment. Quoi. C'est tout. On fait des images, on fait des plans. On fait... Donc c'est vraiment... voilà, il faut être un peu spécialiste de tout et arriver à produire tout et arriver à les reproduire.
Manon ?
Juste une question moi, qui, j'espère, dans la tradition française, ne sera pas vécue comme quelque chose de traumatisant. Quel est le budget pour la boîte lumineuse et LVMH, le budget global?
Je te cache pas que j'en ai plus aucune idée. Et par contre, je sais que quand on est allé rencontrer les salons du midi, qu'on est arrivé avec Louis Vuitton derrière, ils ont eu les yeux qui ont pétillé, et qu'ils leur ont vendu une fortune les tuiles. La tuile, je ne sais plus à combien elle était, mais...
Tu ne sais pas combien vous aviez pour fabriquer ça?
Si, je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus parce que...
Il y avait une contrainte quand même? Il y avait une contrainte financière qui était fixée ou c'était...
Il n'y avait pas trop de contraintes. Parce que ça... Ah non, plutôt, ça peut... Il n'y avait pas trop de contraintes. Ce qui s'est fait d'ailleurs dans le deal entre les salons et Louis Vuitton a été un peu extérieur à nous. On ne sait pas, on sait que ça a été négocié à chez Cher par les salons, mais... on n'a pas eu de...
James, tu sais pas combien ça a coûté?
Non, mais c'est non pas que je m'en souviens plus, c'est que
chez la musique, et
je peux te le dire, parce qu'à un moment, on s'est retrouvé au Japon en même temps qu'ils fêtaient leurs 150 ans et qu'ils ont fait une fête hallucinante là-bas, c'est que tous les budgets, genre d'événementiels comme ça, de Louis-Vuitton, ils sont complètement secrets. Ils sont... On n'avait pas de budget établi. C'est-à-dire qu'à un moment, on a Louis Vuitton pour tout ce qui est communication et événementiel de ce type-là. Ils ont 6 mois d'exposition dans une expo universelle qui a attiré, je ne sais plus, 22 000 personnes.
Il y a un moment, ils t'informent même plus combien ça coûte.
Non, et puis de toute façon, ça ne compte pas pour eux. Mais c'est vrai que, non, mais si je te dis ça, c'est vrai que je connais en général mes budgets, mais là, c'est le cadre avec Louis Vuitton. Franchement, c'est des cas très très particuliers.
Donc, l'impact des expédiés en pourcentage.
Voilà. Non, c'est pour ça que je dis, si on est dans la bonne tradition française, c'est que voilà, c'est juste pas savoir ça, c'est juste savoir, justement, de nous dire est-ce que c'est open bar.
C'était assez open bar.
Voilà.
Mais sachant qu'en plus, c'était très secret. C'est-à-dire que le deal, il s'est fait réellement. Bon, déjà, en plus, je te passe même pas les. Parce que, après, suite à ce pavillon français, comme les dirigeants qui sont occupés du pavillon, il y a eu des malversations, des trucs. C'était très très politisé, enfin tu vois, tout était très 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 secret sur ce cas. C'est-à-dire que les transferts d'argent, et encore plus avec Louis Vuitton, et lui cachait en fait, même... Voilà,
tu sais pas exactement combien ça coûte.
Non mais ça je m'en souviens plus, franchement honnêtement je m'en souviens plus. Ouais. Et en plus, ouais, il me reste...
Jean-Déjà ?
Merci.
J'avais des questions un peu rapides, juste sur... sur la question de la contrainte, Vuitton a donné un cahier des charges précis sur ce qu'il voulait dire, représenter. Et du coup, comment est venue cette idée de la transparence? C'était il y avait un cahier des charges au départ, comme on donne à un designer en disant il y avait pas, je veux dire ça.
Bah, c'est vrai que c'est un projet.
C'était open bar là aussi.
C'était, il n'y avait pas trop de cahier des charges parce qu'en fait, quand j'ai fait ce projet, je l'ai fait avec un scénographe qui était très très proche de Yves Carcel, mm-hmm. des acteurs de Louis Vuitton. Et c'est vrai que c'est des... on n'est pas passé du tout par la filière classique du projet, c'est-à-dire de partir d'en bas pour remonter jusqu'à Dieu.
D'accord.
Et que les choses se sont faites assez directement, entre, directement avec Yves Carcel. Donc en fait, on n'a pas eu énormément de...
C'est une carte blanche, fait du prince un peu.
Et c'est pour ça que c'est en plus dans le cadre, c'est un projet qui est un peu exceptionnel.
C'est exceptionnel. C'est
un projet qui n'arrive
pas souvent.
Et en plus, pouvoir passer directement par le haut et du coup plus avoir les filtres, parce que ça, on peut en faire aussi des tas, puisque j'ai fait d'autres projets avec Louis Vuitton, mais là, en partant de là, particulièrement la boutique sur les Champs-Élysées, où là, les strates de réunions et de filtres qui se passent avant, parce que chacun craint ce que va dire celui du dessus, jusqu'à ce que ça fait mal au projet. Donc là, dans le coup, on était vraiment dans un cadre événementiel où il compte pas.
Et sur ce projet-là, particulièrement, si tu devais dire ce que tu as plus convoqué comme compétences de ce que tu as appris à l'école, c'était plus des compétences de designer
ou d'architecte ? Non, c'était plus des compétences d'ouverture.
Je ne suis pas pour les séparer, hein, forcément.
Oui, non, le truc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que nous, on ne le sépare pas autant. Alors, il est très séparé dans les termes, justement, qu'on en fait. Il y a pédagogie, il y a l'archive d'intérieur et le design.
Tout à fait.
Mais nous, en tant qu'étudiants et professionnels après, et peut-être encore avec nos étudiants, je pense que justement, on est toujours en train de passer de l'un à l'autre et qu'en fait, on ne voit pas vraiment la frontière. Donc moi, ce que j'ai convoqué sur ce genre de projet, c'est autant des aspects plastiques que j'ai eu à l'école, autant du dessin, autant... Et c'est vrai que j'ai convoqué un peu pas mal de choses. Mais j'ai jamais fait une vraie frontière, et c'est pour ça que je présente ces deux projets, c'est que pour moi, ils font partie intégrante de ma profession de tous les jours, de justement de jongler de la...
Toi, tu seras particulièrement sur un projet de justement de scénographie, des gens d'espace, qui vraiment est tout s'imbrique.
Ben voilà, c'est ça. Alors, et en plus, il est assez magique pour ça, celui-là, c'est que tout s'est imbriqué du début à la fin. Parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'à la fin, les tubes de sel ont été renvoyés à la mer parce qu'il se trouvait qu'à Aichi, c'était au Japon, il y avait un temple japonais qui vénérait le sel. On ne savait pas. Donc jusqu'à la fin, en fait, on ne savait pas. Et du coup, Louis Vuitton a sauté sur l'occasion aussi de recréer un événement derrière pour organiser une cérémonie pour rejeter toutes les tubes du pavillon dans la mer.
Et elle se
perd. Après, les tunions, tout ça, ils sont partis à la mer, mais...
C'est du sel.
Ah, c'est du sel, c'est juste du sel.
Je refais. Allez, c'est la dernière. Je voudrais savoir, parce que je n'ai pas vu à l'époque ce que disait la presse, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des magazines qui, évidemment, je pense que l'impact du ton est plus sur le talent de ceux qui ont fait, hein, bien sûr. Mais l'angle de communication principal, c'était quoi? C'était ce que j'ai vu à un moment dans le titre du Figaro par nature, donc j'imagine qu'il y avait une dimension. Sur la dimension sel, est-ce que c'était la dimension esthétique ou est-ce que c'est la dimension d'expérience qu'on faisait vivre aux passants ou aux visiteurs dans ce lieu?
Bah, c'était surtout la notion. Bon, c'est vrai que pour la plupart des articles, c'était quand même effectivement le bouton d'ailleurs qui faisait parler. Tout cet aspect un peu, on va dire, classique, vu que le thème était le développement durable, c'est très à la mode à l'époque, ça y est toujours plus ou moins, c'est un journal manga ou ça. Mais par exemple, l'article le plus élogieux qu'il y a eu sur ce truc-là, c'est justement Tretiak dans Beaux-Arts Magazine, qui lui a traité que de l'aspect plastique. Donc c'est assez marrant parce que.
Tretiak a dit du bien de vous ?
Ah bah là, l'article, toi, t'as dit, il est ultra élogieux. Wow. Tretiak.
Ah oui, ça dure quand même.
Et c'est assez marrant parce que.
Voilà, il a écrit un bouquin qui s'appelait Faut-il pendre les architectes ?
C'est une question.
Moi, je trouve que c'est intéressant, la question qui est posée actuellement, c'est que la lecture que l'on a sur la question de notamment de la communication pourrait être en amont ce qui génère le concept, à savoir une certaine image à faire passer qui va se traduire par un design d'objet, un design d'espace. Et ça serait intéressant de mettre en amont et ce qui pourrait être ce que vous voulez voir dans une revue, normalement, qui va faire apparaître l'axe dominant de la communication. Mais c'est un concept, ça peut être un concept de départ. Est-ce que quand vous avez fait le travail, oui, je garde le vous, hein, mais ça c'est notre connivence. Est-ce que le sel était un élément dominant, c'est-à-dire une récupération, ce qui a été en partie dit sur la sur l'utilisation de matériaux primaires, de récupération ou autre, du décalage entre les matériaux conventionnels et par rapport à des matériaux qui ne sont pas employés habituellement. Est-ce que c'était ça le concept et qui allait générer après l'espace, les objets, le design, le détail et le système de même de fabrication, de transport, d'économie?
C'est vrai que le sel, oui, il est venu très très tôt dans le projet. Et qui plus est, parce que je dis avec Emmanuel, on avait fait une bourse très peu de temps avant, on voulait travailler sur ce matériau, donc il était déjà là, on ne l'a même pas cherché. Et le développement durable et l'écologie étant le mathématique de l'Expo universel, c'est vrai que le rapprochement s'est fait assez vite. Alors après, l'idée du reste est venue en cours de route, et surtout par la rencontre avec les salons du midi et leur outil industriel. Et justement, de voir toutes les possibilités qu'on avait. On avait déjà essayé, en plus avec Emmanuel, d'usiner les blocs, en tout cas de voir s'ils étaient usinables par l'entreprise ou par nos propres moyens. Et c'était quasiment impossible, parce que tous les appareils qu'on a utilisés ont rouillé très très rapidement. C'était impossible à maîtriser. Donc c'est vrai que c'est vraiment la rencontre après avec les salons qui nous ont donné le disque, et puis tout s'est enchaîné. Et ça arrive très rarement. Enfin, moi, un projet comme ça, je n'ai jamais revu depuis, parce que tout s'est coordonné tout le temps, jusqu'à la fin. Jusqu'à l'accrochage, les ombres, la superposition, le motif, le sel, enfin, tout était parfait, presque. Dans la conception, tout était. Tout coulait de source, en fait. Il était imprenable quasiment de nulle part. Alors après, bon, la forme, elle n'avait rien de très folle, mais elle nous était imposée dans le bloc.
Une question de Carola.
Oui, alors moi j'ai envie de retourner un tout petit peu plus en arrière parce que ça m'intrigue vraiment cette histoire de sel. Et du coup, vous avez déjà travaillé avant sur une bourse autour du sel. Et ma vraie, voilà, la chose que j'aimerais vraiment savoir, c'est à quel moment apparaît le sel comme matériau de construction possible et pourquoi. Je ne sais pas si tu te souviens de ça ou comment ça a commencé avant
8
ans
cette affaire. Avant, en fait, c'est quand on a fait cette bourse, le sel, il n'était pas comme matériau matériau de construction ou matériau. C'était juste qu'on avait un projet, on voulait faire participer d'ailleurs pas mal de nos amis d'école à l'époque, de designers assez connus, et on voulait produire on voulait créer un événement où on présentait des objets divers, plein de designers possibles, qui pesaient 3 kg 100. Donc l'idée c'était ça, c'est 3 kg 100. Donc on avait mis tout un protocole de fabrication où on mettait 3 kg 100 de matière à injecter et puis s'injecter que ce qui pouvait s'injecter. On allégeait quelque chose qui faisait 3 kg 200, on pouvait faire 3 kg 100. On pouvait obtenir des petits objets très très lourds, grands comme ça, comme on pouvait obtenir des objets énormes, très légers. Et en fait, le sel, il apparaissait à cet endroit-là comme le poids de validation. C'est-à-dire qu'on créait des lingots qui pesaient 3 kg 100 et qui étaient le. On avait fait toute une démarche sur l'impôt. Enfin, ça découlait quand même du sel en France avec l'impôt, tout ce que ça pouvait arriver. Et du coup, notre élément de mesure, il pesait 3 kg 100 et il était en sel.
Et pourquoi 3 kg 100?
Alors, c'est ça,
c'est une
grande histoire.
Ça a été une grande discussion. 3 kg 700, 2 kg 9.
Donc, l'idée, c'est de partir sur du poids plutôt que sur un autre poids de départ et développer à partir de cette
mesure, c'est comme ça. Voilà, qui était le sel, mais comme parce qu'avant, il avait été aussi un outil de mesure par rapport à l'impôt, je l'impôt en sel. C'était vraiment une façon de repartir. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, ce petit bloc, il était. On l'avait fabriqué nous-mêmes, on a usé un bloc comme ça pour obtenir ça à peu près régulier, pour voir déjà si on pouvait l'usiner.
Manolita,
je voudrais rebondir sur la question de René Jacques à propos de quelles compétences utiliser, design, architecture d'intérieur, etc. Et en tant qu'historienne, je vais me permettre peux dire qu'en travaillant sur un architecte de la fin du 19e siècle, je me rends compte que vous pratiquez de la même façon. Voilà, donc Alexis pourrait en parler également. J'ai classé 3000 plans d'un architecte inconnu, Camille Albert, qui a été formé à l'école des arts appliqués à Genève à la fin du 19e siècle, et qui a commencé par dessiner des horloges, des petits meubles, des armoires. Ensuite, il est monté à Paris dans l'espoir de trouver du boulot, et comme il était protestant, et ben, il s'est fait copain avec des archives protestantes un peu connues à Paris. Mais pas de bol, pas beaucoup de fortune, pas beaucoup de réseau. Donc il a gratté chez des archives. C'est comme ça qu'il a appris le métier. Et puis finalement, par ce réseau, il a quand même réussi à avoir un noble titre d'architecte municipal d'une petite ville du littoral de la Normandie. Et quand j'ai redécouvert en fait tout ce fou, je me suis rendu compte que c'était un architecte qui dessinait le détail en même temps qu'il dessinait des maisons bourgeoises, néo-gothiques, néo-renaissance, tout ce que tu veux, il te déclinait tout. Et il dessinait de tout. Et je trouve ça génial parce que la enfin, tu vois, c'est un temps énorme qui s'est passé, quoi. 100 ans, mais je me rends compte que, enfin, moi, ça me frappe, quoi. Ce que tu montres dans les dessins, même en 3D et fait de manière informatique, bah, c'est la même manière, en fait, de faire.
Cette analogie,
elle
est omniprésente, mais c'est justement, moi, je voudrais juste te dire ça, c'est parce que j'ai beaucoup parlé. Moi, ce que vous dites, et je suis désolé de enfoncer des portes ouvertes, mais là, il y a deux architectes qui pourront peut-être contredire ce que je dis, mais je pense qu'au XXe siècle, il s'est trouvé que le cadre de production d'architecture a changé. Je veux dire, le choix des matériaux, par exemple, il n'existe quasiment plus aujourd'hui. Le BTP domine les modes de construction à peu près partout. On est dans une espèce de méthode un peu imposée. Et on fait avec des outils qui sont prédéterminés. En archi d'intérieur, me semble-t-il, c'est peut-être une petite caricature, mais tout ce dont tu as parlé, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on est, et c'est bête ce que je suis en train de dire, j'enfonce une porte grande ouverte, et une des spécificités, c'est que tout est sur mesure, on est dans une démarche de haute couture. Et là, avec un cas particulier, qui est un cas un peu...
Je ne sais pas pourquoi je dis c'est bête, mais
c'est évident. Alors,
c'est évident.
C'est évident, mais voilà, c'est le côté ouais. Évident.
Et c'est ça qui est intéressant par rapport aux séquences de design qui sont provoques, c'est qu'il fait appel à la question de la fabrication en série, et notamment sur le deuxième projet, comment produire une image qui ne produit pas cette image en fait de répétition et de série, comment concevoir un module qui soit toujours le même et répété, mais le permettre un assemblage qui le montre sous un angle différent et qui va produire une image qui n'est pas celle d'un élément répété comme ça par rapport au projet d'une. Donc ça, je pense que de penser par rapport à la série et de l'inclure dans ton projet à l'échelle du détail de la construction, c'est aussi le fait voilà, d'avoir une formation qui à un moment donné aborde ces questions-là.
Mais on est dans la série, mais on est aussi dans la question et la relation entre le standard et le non-standard.
Moi, je suis pas d'accord, c'est pas vraiment la série, parce que c'est comme quand un ferronnier fait du garde-corps pour un Haussmannien. Il répète un module ou un motif, mais ça reste quand même quelque chose fait sur mesure, exprès.
C'est ça, mais c'est à peu près ce que dit Manolita en substance, si tu veux. C'est que je pense que les architectes,
à la fin du 19e
siècle, travaillaient comme ça. Ils travaillaient comme ça, Evangelos. Véritablement, ce que montre, alors, pour le coup, on choisissait des fabricants, on choisissait un tapissier, on choisissait un mode de fabrication de la ferronnerie, de la serrurerie, du composant. Et en fait, là, dans ce que tu montres, je veux dire qu'on est quand même dû à la pièce. C'est-à-dire que c'est même à la pièce qui sert de composant, qui ensuite, tu le dis, elle va s'ajuster. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées des séries, mais avec des objets non standards, ce qui est quand même assez extraordinaire. Moi, c'est ce qui me frappe. Mais voilà. Et puis, il y a un travail dans la démarche. Tu dis, on prend en compte, on fait un relevé, on prend en compte l'existant. Première chose, c'est où je m'installe. Et puis après, il y a quand même un travail. Excuse-moi, mais là, ça va. C'est dommage que Clotilde ne soit pas là, mais... Clotilde Félix, qui a fait sa thèse sur la question de l'habit, de l'habité, mais c'est de l'habillage. C'est de l'habillage. Et on est effectivement dans une forme d'habillage qui est extrêmement intéressante et caractéristique, quelle qu'en soit la méthode après. Mais c'est un habillage. Voilà, c'est un peu ce qui me frappe dans la méthode.
C'est du décor.
Oula, j'ai pas dit ça, moi.
Mais je suis d'accord avec
ça. Bien sûr.
Je pense que c'est un décor. Non, mais c'est un décor quand même. Me semble-t-il, je suis d'accord avec toi. mais dans le bon sens du coup, c'est pas quelque chose de péjoratif.
Ah, mais je pense que décor n'est pas un mot péjoratif.
Voilà. Et par rapport à ce que tu disais, pour les architectes, il y a différents. Bon, moi, je travaille aussi à Val-de-Seine. Il y a une approche beaucoup moins sensible dans l'enseignement de l'architecture que celle qu'il y a à Camondo sur la couleur, sur des aspects qui sont très rarement abordés de manière scientifique, comme c'est le cas ici, par exemple la couleur. Voilà. Tu es peut-être d'accord avec moi.
Ouais.
Par contre, parce que tu travailles aussi dans une école d'architecture. Dans l'école d'architecture 2, il y a une approche où j'ai découvert ça beaucoup plus sensible. Et en fait, moi j'ai une expérience professionnelle particulière. J'ai travaillé très longtemps chez Claude Parent, qui employait souvent des étudiants, des architectes d'intérieur qui sortaient de l'école Camondo. C'est comme ça que je suis arrivé ici d'ailleurs. Et là, je pense que ça dépend des architectes aussi. Il y a des architectes qui sont des architectes très rationnels, qui pensent au programme, qui ont aussi, ça dépend aussi de la taille du programme. Parce que dans des grands programmes, on fait quand même appel à des architectes d'intérieur, on ne peut pas faire autrement. C'est impossible. Et quand on pense aux architectes anglo-saxons, la plupart du temps, qui utilisent ces outils numériques aujourd'hui, je ne sais pas votre cas, mais on est dans une approche quand même des plasticiens, comme Marc Fornes, des gens qui sont, on ne sait plus si ce sont des plasticiens, des architectes d'intérieur, il y a la frontière, ou des architectes, la frontière est très, très complexe. Ben là, on est dans cette dimension-là. Donc je pense qu'il n'y a pas. C'est difficile de répondre à ta question parce qu'il y a différentes façons d'aborder l'architecture et l'architecture intérieure, je pense.
On laisse la parole à l'évangile.
Je voulais revenir sur la définition que tu disais tout à l'heure sur le statut de l'architecture intérieure et du design dans le Camondo. Moi, je trouve que la démonstration ici est extrêmement pertinente dans la mesure où je crois que tout concept, tout démarrage d'un problème d'espace, tout dépend de la géométrie, c'est une géométrie variable. Là, ici, on parle d'un point, d'un détail, et on va vers le général. En impliquant les technologies, les démarches après l'espace et les démarches de communication et d'image. Mais on aurait pu partir dans un autre, d'une façon très technologique ou d'une démarche très spatiale, très rigoureuse, et à un moment faire décliner dans un autre sens le détail, les technologies qui viendraient et autres. Moi je crois que actuellement il y a une fusion, je trouve qu'il n'y a plus de raison de séparer les territoires, surtout que l'architecture est très marquée par le design. Tout composant d'un édifice n'est que des successions d'assemblages de design. Et je trouve que c'est intéressant de voir, on peut partir de tous les coups, du grand général vers aller le détail, et du petit détail pour aller vers le général, avec des scénarios extrêmement différents. Et là, vous êtes parti d'un point très précis, et vous l'avez généralisé, mais vous avez traité quand même l'espace, vous avez traité le fonctionnement, et après, même ce qu'elle peut se dire, l'image de marque, à quoi ça aboutissait en plus.
Laisse la parole à Evangelos.
Je ne vois pas le débat.
Non, mais c'est vrai, mais oui. Justement, pour revenir là-dessus, intéressant, c'est qu'on arrive à une forme de synthèse.
Synthèse.
Je trouve qui est assez emblématique de l'identité, me semble-t-il, de l'école, hein, qui a ces deux outils-là, et qui a en plus une patte et une touche qui est particulière, je pense, à l'école. Il y a aussi qui est une dimension plastique. Oui. Alors, je ne sais pas s'il faut dire plastique, mais qui peut laisser une certaine place et une certaine liberté à la question du style, qui est plus aujourd'hui, je crois, un débat et une guerre entre la question du style et la fonction, enfin, qui ont été des débats qui ont animé le secteur du design et justement en écartant les choses de manière un peu condescendante, hein, finalement. Je crois que ces sujets-là aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les identités s'effacent, mais en tout cas les frontières entre ces identités-là, aujourd'hui, sont beaucoup plus poreuses, me semble-t-il. Et c'est là-dessus que finalement une école comme celle-ci a un atout formidable.
Alors c'est vrai que juste pour clôturer, puis le laisser quand même faire son.
Et je pense que
et par rapport à Claude, ce que
je voulais répondre.
C'est que bon, moi j'en ai des tonnes, là j'ai encore plein d'images derrière qui suivaient, parce que justement là on a eu un exemple industriel avec la tôle, on a eu un industriel avec le sel. Il y avait un autre projet après qui était vraiment de l'intérieur, où là on était parti de la figure cellier, de l'artisanat et on a fait tout un appartement entièrement, pratiquement en partant de la couverture cellier. Donc en fait c'est effectivement cette déclinaison et ce point d'entrée qui peut être utile. Il peut être la matière, il peut être l'industriel, il peut être l'artisan, il peut être le. Il y a un moment, c'est vrai que l'école nous permet, en tout cas nous essaie de le retranscrire, particulièrement en troisième année, je suis un peu plus, mais et par justement cette multiplicité d'entrées de projets qui peut après partir de petites choses qui peuvent aussi et qui par la culture du projet finit toujours par se couper et par fonctionner.
Non, moi je voulais juste rebondir là-dessus parce que vous parlez que finalement c'est la même chose, mais tout à l'heure quand j'ai parlé du problème de l'enseignement, des choix qui ont été faits pendant le XXe siècle, c'est pour dire qu'en fait, c'est du projet. Donc c'est du projet qui est très petit, de très petite échelle, comme ça peut être du projet de très grande échelle. Mais ça reste du projet. On est, comme disent les Italiens, des projets qui starts. Donc c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout étonné par la réflexion sur l'architecte du XIXe. Moi, je pense qu'on fait toujours la même chose. Simplement, il y a eu... On ne va pas faire un cours là-dessus, c'est pas, en plus, ce n'est pas mon métier, mais il y a le Bauhaus, je pense, qui crée quelque chose de très différent, qui n'est pas très clair par rapport aux arts appliqués, l'artisanat, l'industrie et l'architecture, l'enseignement de l'architecture. On a la guerre, on a l'école d'Ulm par la suite qui récupère Bauhaus, mais récupère plutôt tout le côté par rapport à l'artisanat, le graphisme, la typographie, la couleur, et l'architecture qui passe, je pense, prend une autre dimension parce qu'il y a la reconstruction, on ne faisait pas l'architecture à l'école. Donc l'architecture, ça peut être une question de corporation aussi. Et c'est là où on commence à prendre deux chemins. Mais pour moi, Carlos Carpa n'a pas étudié l'architecture. Il a appris à faire des meubles et du dessin et il fait l'architecture. De l'autre côté, Castiglioni, il est architecte, il enseigne à Politecnico et à Turin. Et il fait quand même beaucoup de design, il fait beaucoup de scénographie. Donc pour moi, et c'est pour ça que je pense qu'on est là, que chacun va parler différemment, mais moi je suis là pour lancer ce débat aussi. Pour moi, il n'y a pas du tout de...
C'est aussi que le système français n'est pas le système italien. Il y a une spécificité culturelle.
Oui, alors pourquoi?
Mais bon,
l'État... Bah, l'anglais non plus. Hein, oui, mais... Non, mais je pense que la question est là.
Entre nous.
À toi de jouer.
Tu peux venir en savoir si on construction dans un habitat ou autre chose.
De quoi, pardon?
Si on pourrait envisager le sel comme matériau de construction dans un habitat ou autre chose, où il y a trop de contraintes techniques liées à ce matériau.
Lequel, le sel?
Oui, le sel.
Bah, le sel, c'est comme. Oui, c'est. Dans le temps, je ne sais pas comment ça. En même temps, ça résiste, mais. En tout cas, nous, on ne l'a jamais envisagé comme un matériau vraiment de...
Pérenne. Ouais.
En même temps, après, tu vois, c'est très similaire à certaines autres choses que tu trouverais minérales et qui résisteraient beaucoup mieux. Donc, encore une fois, ça se tente. Enfin, tu vois, nous, on ne pensait pas qu'on pouvait fabriquer quelque chose avec du sel en allant à Nancy dans les mines de sel. Et après, c'est...
Le montage des parasols sur le sol. J'avais pas lu la légende. J'avais pas lu la légende de la photo. Mais que diable Evangelos vendait cette photo? Pourquoi?
Bah oui, vas-y.
Ouais.
Ah oui.
Attends.
Bon, je ne sais pas si cette année je vais avoir l'occasion plus tard dans l'année. Okay. Je ne sais pas si cette année, un peu plus tard, j'aurai l'occasion de te présenter mon travail, comme c'était le cas l'année dernière, en février-mars.
Au cinquième année. Ouais.
Du coup, là, j'ai essayé de répondre assez rapidement à la question posée par Alexis pour cette première journée. Mais si vous voulez, j'ai quelques exemples de mon travail, mais c'est très peu parce que je me pose plutôt la question pour la première fois, finalement, dans ma pratique, du rapport. Le rapport entre la conception d'un objet, d'immobilier, et en même temps.
L'espace.
Oui, alors moi je ne suis pas d'accord avec le terme espace, mais oui, d'une architecture.
D'une architecture. Et c'est pour ça que je t'ai demandé aussi à toi, c'est parce que tu as à la fois une pratique, une formation double, triple, quadruple, je ne sais rien, c'est-à-dire une formation Camondo, une formation d'architecte. Aujourd'hui tu pratiques l'architecture d'intérieur, tu conçois des meubles qui sont édités. Donc une pratique de designer, donc tu recouvres un peu tous ces champs. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui. Alors, déjà, pour rejoindre James, moi je me suis vraiment rendu compte de tout ça, c'était quand j'ai fini l'architecture. En finissant Camondo, j'ai pensé encore qu'il y avait l'idée de l'architecture, intérieur, architecture.
Et en fait, c'est après mes études en architecture, quand on s'est enseigné après, que je me suis rendu compte que, pour moi, je suis toujours dans la même chose. Je suis dans la projection. Je suis dans le monde des idées, comme tu dis, des concepts, des théories et de l'application, aussi possible, de l'application des théories dans le projet. Donc, en faisant des choses qu'on espère vont être construites un jour, ou jusqu'au bout, on va les construire. Bon, je commence et on verra au fur et à mesure comment ça va se passer. Alors, la première photo, c'est une. Ouais.
Parce qu'elle est au milieu de l'écran. Voilà.
Merci. Alors, c'est une photo prise par George Nelson, l'architecte, designer, graphiste, américain, ami de Bertolia et aussi, à l'époque. C'est une photo qui est prise en Russie pendant l'exposition nationale américaine qui se fait en Moscou en pleine guerre froide. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une photo de Nelson, c'est un ouvrier. Et je pense, enfin, c'est pas expliqué dans son livre, mais je pense que c'est fait quand même, enfin, il y a comme le regard de l'architecte designer, c'est le minimum, enfin, c'est l'espace habité, l'abri minimum, c'est le casque, et c'est le même objet qui est retourné pour devenir le container minimum qui est, enfin, le verre, enfin, pour boire. Quoi. Donc là, on a une maison sur sa tête et la même chose, c'est un bol dans ses mains. Donc, c'était une entrée dans le sujet. Penser l'architecture de Jim Thorpe, c'est un livre assez simple, assez intéressant en même temps. On est dans l'intuition, je pense, on n'est pas dans la théorisation. Il essaie d'expliquer des pensées, mais surtout comment ils sont les choses. Et de la première page, il y a quand même l'entrée à l'architecture à travers le design. Donc, en gros, il parle des sensations, il parle des ambiances, donc c'est très important pour ton séminaire aussi. Mais en gros, il commence à penser, à sentir, à réfléchir à l'architecture au moment où il touche la poignée de porte de sa grand-mère ou sa tante. Donc, il y a le gravier, il y a les odeurs, il y a les sensations comme ça, mais il y a quand même un objet de design dessiné qui est, je pense, moulé en laiton, qu'il touche avec une température, avec une sensation, avec une odeur aussi, pour rentrer dans une architecture. Donc ça aussi, pour moi, c'est assez important parce que l'architecture, oui, c'est vrai, c'est de l'ambiance aussi quand même. Et ça, une des premières fois que je me suis vraiment posé la question, c'était quand j'ai visité une exposition de Zurk et Demeron à Londres il y a plus ou moins 10 ans, 15 ans, où il y avait une partie de l'exposition qui parlait de design olfactif, mais pas design olfactif comme les designs, enfin comme les nez qui font des parfums, mais parler de l'association des parfums à l'architecture pour créer plus de sensations en découvrant un espace et plus des liens entre le vécu, enfin vivre un lieu et les auteurs qui vont avec. Donc, je disais tout à l'heure que la question s'est posée. Moi, je me suis jamais posé la question. C'était la première fois que je me suis dit, bon, c'est quel est le rapport entre une table que je fais et une maison ou un intérieur? Et pour être honnête, pour moi, il n'y a aucun rapport. Donc, quand tu m'as demandé de faire ça, je me suis dit oui, mais moi, je ne suis pas donc dans une démarche comme ça. Il n'y a pas de rapport. Mais en fait, en réfléchissant, je me suis dit, je ne vais pas aller à la conférence me dire à rien, il n'y a pas de rapport, je me vais. Donc, je réfléchis un peu plus. Et effectivement, il y a des rapports, mais ils sont des rapports un peu plus... c'est sûr qu'ils ne sont pas formels, on va dire. Mais peut-être aussi. Mais de toute façon, on n'est pas dans la suite des choses. Et du coup, je me suis dit, bon, la question, on peut la poser pour commencer en posant d'un côté le Gesamtkunstwerk, donc l'œuvre totale, et de l'autre côté le design universel avec point d'interrogation, parce que je ne sais pas si c'est une notion qu'on peut utiliser, mais bon, design universel ou production en série d'industriel ou semi-industriel. Mais en tout cas, l'antipode de Gesamtkunstwerk. Donc là, c'est sûr que moi je ne suis pas dans le love total. C'est ça, ça m'a aidé à comprendre que la préparation, c'est mon sens, que je ne suis pas dans. Donc, d'un côté, je suis désolé, je ne savais pas que vous avez parlé de ça. Mais en tout cas, moi je ne suis pas spécialiste encore, une première fois, mais c'est pour montrer comment je vois les choses. Donc, il y a d'un côté, pour moi, il y a. Parce qu'on parle de Gesamtkunstwerk plutôt, je pense, à la période de la récession viennoise, mais. Pour moi, Malestiveux, c'est la même chose. C'est tout est dessiné sur mesure pour cette architecture et ces clients-là. Donc là, pour moi, il y a la question de la série. Si il y a un client et le client n'est pas universel, pour moi, la série est relative. C'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas très d'accord, mais ça discute aussi. Donc, la maison qui vient d'être rénovée, enfin, heureusement. Donc là, il y a le vestibule. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout est dessiné sur mesure. Il y a une commode, enfin, il y a une console au fond à gauche, là, incroyable, en chrome. Il y a un luminaire, tout est sur mesure. Pareil pour la salle à manger des enfants. Les chaises sont dessinées pour cette salle à manger. Je pense que le choix du veinage à l'horizontale pour ce bois, probablement, je pense que c'est fait exprès. C'est que pour cette salle à manger. Idem pour le boudoir de madame. Bien entendu, je pense que l'architecte, là, il a des petits réflexes. Donc, il y a des choses qu'on va retrouver, que ce soit au niveau de l'époque, parce qu'il y a des petits traits communs avec Charot, avec l'utilisation du fer plat, je pense. Mais il y a des meubles de Malestiveuse où on retrouve des petits tics, mais quand même, c'est fait pour madame. Là, c'est la chambre des parents. Tout est dessiné sur mesure. Jeune homme, donc je pense l'enfant, vu les couleurs. Et de l'autre côté, je prends l'exemple de IMSS. Donc, c'est vrai que il y a quand même quelque chose derrière. C'est quand il fait une chaise et quand il fait une maison ou un intérieur, il y a quelque chose, mais ce n'est pas le trait stylistique qui va du plus grand au plus petit. Donc, ça fait une maison, un film, une chaise. Oui, il faut avoir un concept structurel. Donc, on prend l'exemple de la série des unités. Donc, il y a l'étagère, il y a donc, les étagères qui peuvent, avec des différents éléments, mais quand même un principe structurel, des contreventements avec des petites croix de Saint-André et du contreplaqué, du plywood. La même chose en commode, en bureau et sa maison. Donc là il n'a pas dessiné tout ça pour chez lui, mais quand même on retrouve des principes dans sa logique de structure. Donc quand on s'approche, je pense qu'on est quand même assez proche dans sa démarche, dans sa problématique par rapport à la structure même de l'architecture. Donc après j'ai essayé de trouver d'autres façons, enfin des points communs chez des designers. Donc c'est un travail assez difficile parce qu'encore une fois c'est pas mon métier et j'avais pas beaucoup de temps, et en même temps c'est assez risqué parce qu'on peut rentrer dans des interprétations qui se veulent subjectives et objectives qui deviennent subjectives, mais bon je pris le risque. Donc il y a la forme génératrice chez c'est Diopanti, donc il y a le diamant, donc une forme abstraite. Forme génératrice, de la même façon qu'on va la retrouver chez Talon avec sa forme, je ne sais pas comment il l'appelle, l'anon pour sa forme de télé, de pouf et de tout. Donc il y a le diamant, on le retrouve à l'échelle des services de table, on va le retrouver à l'échelle d'une table basse, et on va le retrouver aussi à l'échelle d'un bâtiment. Là on est vraiment dans l'architecture. Donc il y a aussi des exemples d'architecture intérieure, une maison en Amérique latine où on retrouve la forme du losange plutôt, ou au sud de l'Italie, même au dessin, au niveau de dessin des sous-plats, du carrelage. Bon, quand même un bâtiment magnifique. Avec des petits traits post-modernes, déjà avec un couronnement au niveau d'un bâtiment très moderne. Il y a l'analogie. Donc je vais dire, oui, l'analogie. L'analogie dans le sens où. Moi, je ne suis pas très d'accord, même si le Rossi, c'est Rossi, donc ce n'est pas moi qui va critiquer Rossi, mais ce n'est pas une façon. Par exemple, en cherchant à comprendre comment je travaille, c'est sûr que ce n'est pas ça. Je ne suis pas dans l'analogie ou le mélange des échelles. Donc ça, c'est un dessin pour le Théâtre del Mondo à Venise. Donc là, c'est le vrai bâtiment. Et là, c'est une cafetière pour Alessi. Et là, c'est la cafetière réalisée. Il a fait aussi avec... il a fait ça avec une horloge aussi pour Alessi. Donc c'est une autre façon d'aller du grand au petit. Mais je pense que là, on est dans l'analogie, vraiment le bâtiment, l'objet dessiné comme un bâtiment, l'objet dessiné en élévation, à l'ancienne, vraiment. Alors là, on peut parler du 19e. ou même avant. Alors là, c'est une page pour...
un effet inverse. Tu sais, toute la production qu'on voit de pâtisserie dans les rues de Paris 1900, c'est le décor de petites cuillères qui est érigé à l'échelle du monument. C'est l'exact inverse. Et tu prends le décor des argenteries Louis XV, tu les mets à l'échelle d'un immeuble de 10 étages, et tu as toute l'architecture post-haussmannienne 1900-1910.
Merci. Non, non, c'est une table ronde. Au contraire. Alors là, c'est une page pour toi, quand même. Parce que je ne savais pas où placer cette diapo, donc là, je me suis dit, ça peut passer. Ouais. Parce qu'on parlait de la question de l'architecture intérieure. Ça existe, ça n'existe pas, ça arrive quand, comment. Là, j'ai une petite preuve que ça existe quand même depuis assez longtemps, plus longtemps qu'on croyait, parce qu'on a déjà dit que c'est sûr, pendant la période Art déco, la période des années 30, le terme existe, on le retrouve sur les planches de projet. Mais là, on est quand même en 1912, Charles-Édouard Jeanneret, donc ne s'appelle pas encore Corbusier, n'a pas écrit pour les esprits... Esprit nouveau. Donc, il rentre chez lui après le voyage dans l'Orient et il fait sa carte de visite. Donc, il nous propose des constructions industrielles. Bon, il commence à être bon en béton armé parce que je pense c'était Bérens avant et il va recroiser Béret. Mais quand même, il parle d'installation de magasins, architecture d'intérieur, architecture des jardins. Donc, au moins, ça existe depuis 1912, au moins.
Je pense qu'on peut remonter avant. Tu l'as trouvée où celle-là? Tu l'as trouvée où?
Bah, dans un livre.
Un livre sur un.
Bah oui.
Tu veux dire un livre?
Hein?
Pas mis ta source, c'est pas bien.
J'ai pas mis ma source. Oui, c'est vrai.
Non, c'est pas là. Manuel Hutta, tais-toi.
Oui, t'as. Oui, je suis désolé. Ça m'arrive rarement. Du coup. Mais là, il y a la question. Enfin, j'essaie de poser la question aussi en réfléchissant. Pourquoi et comment ça se passe? Donc, est-ce qu'on est à la fin de l'académisme en architecture, dans la composition académique de Beaux-Arts? Donc, la composition qui devient un processus. Donc, peut-être ça tombe au même moment, quoi. On n'est plus dans le transcendant, mais on est dans le rationnel, ou de toute façon, ce qui devient un processus, même si ça va rejoindre le transcendant, je pense, avec les dérives du modernisme et les mauvais modernistes des années 50-60 par la suite. Bon. Donc, le décorateur devient peut-être architecte d'intérieur aussi. Ah oui, donc là, j'essaie de passer à mon travail sans m'arrêter trop longtemps pour essayer de trouver des explications. Donc, j'ai fait des projets d'architecture qui ne se réalisent pas, qui ne vont jamais être réalisés. J'ai fait des projets d'architecture qui se réalisent, ils sont réalisés ou seront réalisés. J'ai fait des projets d'intérieur. J'ai fait de la déco et j'assume. Que ce soit dans des projets d'architecture ou des projets d'intérieur ou même des projets de décoration tout de suite, enfin, que de la décoration. J'ai fait du mobilier, édité ou pour des galeries, et j'ai fait de l'objet. Donc, dans tout ce travail-là, j'essaie de trouver des explications. Donc, comme j'ai dit, dans un premier temps, il n'y a rien. Après, je me suis dit, non, il y a des choses quand même. Et je pense qu'il y a une question, c'est toujours un questionnement sur les rapports. Donc, ça reste assez abstrait, mais pour moi, mon travail, que ce soit en petite échelle ou en grande échelle, c'est une question de rapport, que ce soit les rapports faciles, évidents, genre intérieur-extérieur. Ça peut être les rapports humains, mais ça peut être aussi des rapports entre des matériaux, des rapports entre des espaces, des types d'espaces, de qualité d'espace. On est dans l'architecture, on habite, mais on est dans le déplacement, donc on est toujours dans des choses qui changent constamment. Donc il y a les rapports qui se remettent en place, et en même temps, tout ça se construit à travers la géométrie, qu'elle soit simple, basique ou très complexe. Bah, la question de la géométrie se pose quand même. Donc je pense que le seul truc commun que je trouvais entre un sous-plat et un projet d'architecture, pour moi, c'est la question des rapports et la question de la géométrie. Donc, oui, il y a l'approche conceptuelle, que ce soit dans le mobilier ou dans son rapport avec l'environnement construit. Il y a la question de la perception qu'on a, de l'objet ou de l'espace grâce à l'objet. Il y a la question de l'ambiance, participer ou créer l'ambiance. Et bien sûr, la fonctionnalité. Donc on est du projet à la réalisation. On projette, on imagine, et pour arriver à quelque chose de concret quand même. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire des petits parallèles, disons. J'ai poussé les trucs. Donc je trouvais que parfois, il y a, dans mon travail, il y a un dialogue entre des matériaux qui vont signifier des choses. Donc dans une maison assez simple, enfin simple, dans une maison comme celle-là, on aura les volumes plutôt de vie qui seront en enduit blanc et un volume très fin au milieu avec les circulations verticales qui va être aidé dans un autre matériau. Et ce matériau-là donc va signifier, ça fait de l'architecture et en même temps ça va signifier à l'intérieur la circulation verticale, donc un mur en pierre qui fait 12 mètres de hauteur parce que là on est en triple hauteur puisqu'on est, on a trois niveaux. Donc la même chose peut-être dans l'objet, dans le mobilier plutôt, donc avec un marbre minéral massif, lourd, sur une section, on va dire, minimale en tige d'acier. Là, c'est un autre projet où là, il y a encore un dialogue entre deux veinages, un veinage minéral, un veinage naturel, enfin, le bois, le noyer d'Amérique et le marbre de Carrare. Plus une autre question qui se posera aussi plus tard de la double peau et de l'intérieur ouvert vers l'extérieur. Et un tabouret, un petit tabouret en bois d'olivier, où il y a le dialogue entre les irrégularités d'un bois avec beaucoup de veinage, beaucoup de nœuds, beaucoup de défauts en fait, et la perfection de la laque. Donc de la laque, bon, en guillemets chinoise, qui pour moi est un matériau à part. Quoi. Même si c'est un revêtement, pour moi c'est un matériau. Parce que ça recouvre totalement, il y a 12 couches. Donc les volumes, bien entendu, nous sommes tous dans les volumes, donc ça peut être une cheminée, ou un travail encore de mobilier, donc pour une coiffeuse, où il y a un monolithe en bois, où j'essaie de faire flotter sur une structure pareille, minimale, donc la plus fine possible, avec des contreventements assez fins. Et du coup, pour faire tout ça, quand même du design, dans le sens du dessin, de questionnement sur les finitions, où tout est coupé à 45, que ce soit au niveau du tiroir ou de l'abattant à gauche, pour donner vraiment cette impression qu'on a un bout de bois massif, en fait. C'est une photo de l'objet ouvert, mise en scène par wallpaper. Je me suis dit, ça fait une belle contradiction. Moi, j'ai jamais imaginé ça comme ça, mais... bon, la grande portée, pourquoi pas, donc une maison dans le sud où on a deux parallépipèdes superposés, un parallépipède de vie et au-dessus un parallépipède où il y a les espaces de nocturne où on dort, donc qui sont, c'est travaillé comme un pont, en plus c'était travaillé avec un ingénieur qui fait des ponts afin de proposer au-dessous un espace de vie pour l'été. On est dans le sud, donc ça peut durer longtemps. Donc la grande portée, analogie avec une table qui fait 2,80 m dans sa plus grande dimension, qui est conçue en bois massif d'un côté, mais un bois massif qui est travaillé dans la finesse, enfin le plus possible, pour donner l'impression que, avec des découpes et un dessin spécifique, afin de donner l'impression que le plateau fait un 15 mm et qu'on a 15 mm qui parcourt quand même de 2,80 m. Donc là, c'est les détails, comment il est découpé, comment il est travaillé, pour donner cette impression de la grande portée. Bon, la couleur qui signifie des choses. Donc, un traitement que j'assume aussi dans néoplasticien. Donc, j'ai redécouvert ça. Je pense qu'en vieillissant, on redécouvre des trucs qu'on trouvait un peu ringards. Donc, la couleur, dans le sens où la couleur qui décore pas, mais qui signifie, qui par la suite crée de l'architecture, tout simplement, mais... Un mur porteur qui sépare un bâtiment en deux, qui est signifié par cette couleur vert bleu, avec un traitement de rouge pour un seul mur de la maison qui fonctionne un peu comme un fond pour une mise en scène de la vie quotidienne. Et là, pareil, un meuble, une table basse où la couleur simplement signifie un deuxième plateau qui pivote pour changer la nature de l'objet. Donc que ce soit la nature géométrique ou même la fonction dans le sens où on agrandit la surface de Bosco. Et la double pente, donc ça c'est un peu plus difficile à expliquer, mais je vais essayer quand même. Donc là on a une maison dans la banlieue parisienne, elle n'est pas encore construite, donc qui est conçue volontairement avec une façade sur rue très sobre. Donc là on est quand même dans l'enseignement de l'os, dans le sens où il y a une façade assez qui se veut sobre au niveau du contact avec l'autre, quoi, la rue. Et un plan assez complexe que je ne vais pas vous montrer, mais c'est un plan avec des niveaux différents, au niveau du rez-de-chaussée, au niveau du premier étage aussi. Donc, c'est pas du los, bien entendu, mais une logique de rampe-plane quand même, d'un développement à l'intérieur de la maison, qui va quand même donner un résultat sur la façade. Donc, la façade arrière cachée de la propriété, donc derrière, qui est beaucoup plus riche et qui en même temps reflète tout ce qui se passe au niveau du sol à l'intérieur, donc les changements des niveaux. Donc là, il y a un travail de volumétrie plus complexe de ce côté-là. Donc ça, j'appelle ça une double pente parce que c'est un peu l'intérieur qui va commencer à sortir vers l'extérieur d'un côté.
C'est le bon retourné.
C'est le bon retourné. Et bon, là, ça ne se voit pas très bien, mais c'est pour cette raison-là que tous les tableaux de fenêtres, donc toutes les embrasures, sont travaillées, sont habillées, les cadres de fenêtres, avec la même pierre qui est posée au sol de l'intérieur. Donc, peu importe, c'est une pierre grise, mais c'est le sol qui va sortir, bon, retourner sur les fenêtres, quoi. Et donc, l'analogie avec ce buffet ouvert, donc, qui est un buffet, mais qui est ouvert. Donc, puisqu'il est ouvert, il est travaillé en... Enfin, j'ai voulu travailler la double peau, donc, puisqu'on n'a pas de porte, cet intérieur-là, il est travaillé de manière beaucoup plus précieuse. Parce qu'il l'est vu, tout simplement. Donc, travailler presque comme un objet de laque chinoise, quoi, dans un contenant, souvent noir à l'intérieur, rouge à l'extérieur, noir à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Déclinaison en couleur un peu plus mode. C'est pas moi. Et bon, pour finir, je finis sur un truc qui marche pas. Les filtres, parce que je pense qu'on a tous des obsessions quand même, et je me suis dit bon, il faut trouver une obsession, et une obsession c'est les filtres, donc les filtres dans les travaux d'intérieur, puisqu'on est ici quand même pour finir sur l'intérieur, c'est pas mal. Par contre, j'ai pas trouvé de parallèle avec le design, donc mais je vais quand même vous montrer des différents travaux de filtres, donc pour gérer des changements d'espace, enfin de pièces. Et la présence d'un escalier qui n'existait pas avant, le même motif, le même rythme qui se retrouve à l'étage supérieur pour définir cette fois une chambre et un dressing derrière un lit, des filtres cette fois transparents dans un bâtiment classé des années 30 de Jean Gisbert dans le 16e, où je reprends le rythme des façades classées à l'intérieur pour créer des filtres cette fois plutôt acoustiques et même visuel aussi, grâce au reflet, malgré tout, mais beaucoup plus subtil. Là, c'est un filtre un peu plus épais, donc c'est un cabinet de curiosité contemporain, on va dire. Donc, un meuble traversant qui est vitré de deux côtés. Donc, d'un côté, on a la cuisine, de l'autre côté, on a le séjour. Et un meuble au milieu. Mais là, par exemple, c'est intéressant de dire que l'objet, il est dessiné au minimum. C'est le même rythme qu'on retrouve derrière au niveau des meubles de cuisine. Donc, de module de 60 avec une ligne à 90 de hauteur. Mais il n'y a pas plus de dessin que ça. Ça veut dire que, pour moi, ça fait partie du projet. Donc, il n'est pas dessiné. Il n'est pas dessiné comme le buffet de tout à l'heure. Il n'y a pas des détails, des choix dans les épaisseurs. Enfin, c'est un meuble, pour moi, un peu générique parce qu'il fait partie de l'architecture. Et... il a un autre rôle. Bien sûr, Alexis, tu vas me dire qu'il est dessiné, tout ce qui existe est dessiné. Donc, quand j'ai dit dessiné, c'est dans le sens...
Il est fabriqué comment ? Il est à la pièce, il est sur mesure.
Oui.
C'est le poste de musée, là.
Oui. Non, mais tu vois, tu as raison, le filtre, je ne le gère pas encore. Là, des filtres pour gérer des vitrines et donner un côté un peu plus exclusif.
On a vu des meubles, donc ils faisaient des filtres.
Oui, ça tu m'as mis. Oui, je veux bien. Et je finis sur un projet pareil. Il y a une cloison vitrée qui... J'ai reconstitué en fait une enfilade qui était perdue dans un bâtiment fin 18e. Et du coup, la cuisine, son lieu est défini par une cloison vitrée qui reprend quand même le rythme des boiseries qui existaient avant, qui ont été refaites. Et voilà, c'est fini.
Merci, Angelos.
Donc, bon, le but c'était de lancer le débat quand même. Après, il est un peu tard.
Je pense qu'il y a des choses à dire. Et c'est drôle la manière dont toi tu présentes une entrée. Vous en avez parlé tous les deux. Mais effectivement, c'est une espèce de. T'es rentré par le projet. Ce que tu nous as dit tout de suite, en fait. Alors, Jeanne, tout à l'heure, vous décrivait un processus de projet. Et là, toi, tu es thématisé par effectivement les regroupements. Et d'un coup, effectivement, moi, ça me renvoie à cette. Alors, là aussi, c'est ça. Ce qui revient sans cesse dans l'école, une méthodologie du projet qu'on enseigne, qu'on dispense, qui fait qu'ensuite on est capable d'aborder ces échelles alors que tu nous montres très différentes. Et finalement, ce que tu es en train de nous dire aussi, c'est qu'il y a une démarche similaire, peu importe que tu sois à l'échelle du tabouret ou à celui de la tour, enfin, c'est tout à l'heure Joe Conti qui servait un peu d'appui à ça, la démarche peut être exactement la même. J'ai compris tout ce que tu nous
dis. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Pour moi, c'est ça finalement. Donc, j'ai pensé à ça, mais là, j'ai eu l'occasion de réfléchir un peu plus et arriver à cette conclusion, pour l'instant, de toute façon. Mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même cette distinction entre l'œuvre totale et le design donc de série, mais enfin, dans le sens de l'édition de la fabrication industrielle. Oui.
J'ai créé un peu tout, des projets, et tu dis, et même de la déco. Enfin, c'est comme si tu disais, si c'était pas noble, et quand tu montres ce que tu fais, pour moi, t'es vraiment dans la tradition. Enfin, alors, je le prends pas mal, hein. Quand je raconte ça à l'histoire, c'est pas que c'est grave. C'est juste que du coup, enfin, pour moi, c'est comme ensemblier. D'ailleurs, ce que tu montres, quand tu parles de la. Ça reste dans la tradition de l'ensemblier, c'est-à-dire de l'architecte qui fait tout et qui dessine tout, et Warchi à l'échelle 1, enfin, ce que tu appelles l'œuvre totale, il y a des âmes construites, c'est effectivement, tu montres que oui, en fait, c'est, enfin, même si c'est, parce que tu parles de fin de l'académisme, il ne s'agit pas de savoir finalement si c'est de l'académisme ou pas, mais c'est que finalement, il reste toujours cette continuité, ce fil conducteur que l'architecte va toujours, je pense, un architecte accompli qui a envie de donner sa marque de fabrique, du sens à ce qu'il fait, il va être là-dedans. C'est-à-dire qu'il va chercher à aller de l'échelle du grand bâtiment jusque tu vois, au détail de la lampe et de dessiner de la chaise.
Moi, je ne suis pas contre. Je pense qu'on est dans on continue la tradition, mais.
Je ne parle pas de tradition. Je parle d'une forme de continuité. Oui. La tradition est extrêmement dangereuse et nécessite beaucoup de guillemets. Mais
vous avez dit quoi tout à l'heure, je n'ai pas compris.
Pardon ?
Elle parle de continuité, madame.
Je parle de continuité, pas de tradition.
Ah, j'ai compris tradition tout à l'heure, j'ai compris. Ah, bon,
et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu montres dans tes propos, dans ce que tu fais, c'est vraiment cette grande réalité, quoi. De réussir effectivement à tenir ça ensemble dans ta pratique professionnelle.
Oui, merci. Par contre. J'insiste sur un truc. Je pense qu'on est dans la continuité et j'ai en plus je suis très intéressé par tout ce qui s'était fait avant et ça m'intéresse toujours énormément. Par contre, je pense qu'il y a quand même un petit truc qui est différent, c'est que l'ensemblier, je sais pas, peut-être, mais moi, il y a des fois, je fais des projets où je meuble, des fois, je meuble pas. Mais de toute façon, ça m'est jamais arrivé de dessiner des meubles pour un intérieur.
C'est la question que j'allais poser.
Donc pour moi, ça fait une différence quand même.
Est-ce qu'à un moment, il y a une ambition de l'œuvre totale, justement ? Est-ce qu'elle est aujourd'hui ?
Alors, c'est très difficile de répondre, mais pour le moment, puisque je suis passé par l'édition, l'œuvre totale, dans ce sens-là, ne me. Enfin, ça me. Je sais pas, ça peut arriver, mais de toute façon, je trouve.
Dans la maison de vacances ?
Oui.
Tu as dessiné la grande table ?
Ah non, pas du tout.
Non, elle s'est ajoutée.
Ah non, pas du tout alors.
D'accord.
Il faut nous suivre. Non, là c'est une maison de vacances et là c'est une table éditée par Rosé en 2006.
Pardon ?
Non, la maison était conçue. Non, j'ai pas mis. La maison était conçue il y a 2 ans. La table, elle est éditée depuis 2006, donc c'est pas du tout. On est
tout le mobilier que tu as montré n'est pas contextualisé, s'il te plaît.
Alors, tiens, non, j'ai jamais fait des trucs contextualisés. C'est pour ça que, juste pour finir, c'est pour ça que j'insiste. Oui, j'ai aucun problème. Quand je parle de décoration, au contraire, pour moi, c'est très noble. Donc, quand j'ai dit oui, j'assume, je fais la décoration, c'est parce que ça m'arrive toujours aujourd'hui de vexer des gens quand je parle de décoration. Ou que ce soit dans un contexte d'école, ou même si je peux m'adresser à un collègue et dire c'est de la décoration, et il se vexe, il dit non, je ne suis pas décorateur, je suis architecte d'intérieur.
Moi, ça ne me gêne pas.
Oui, je sais, moi non plus. Mais c'est pour ça que je dis ça. Par contre, j'insiste, oui, jamais dessiner du meuble sur mesure pour un intérieur. Si ça m'arrive, ça, c'est génial, j'imagine. Par contre, ce qui est quand même assez génial aussi, c'est de dessiner, parce que quand on dessine une table pour un marché, c'est pas du tout la même chose que de dessiner une table pour Madame Carvois. Donc, il y a autre chose. Pour moi, c'est plus abstrait, ça m'intéresse beaucoup quand même. Et après, il y a ce côté réalité où on est dans les marchés, on s'adresse à des gens qu'on connaît, enfin, on connaît pas. Et en plus, moi, je n'ai jamais eu de brief sur des target groups ou des marketeurs, jamais sur tout ce qui est édité. Donc,
Merci beaucoup, Angelo, parce que je pense que c'est ça, en fait, l'actualité. Quand je parle à la fois de continuité, ce n'est pas la tradition, justement. C'est qu'il y a un contexte à chaque fois qui change. Et ce que je veux dire par là, c'est que justement, là, tu parles de l'actualité du métier. Effectivement, on est dans autre chose qu'à d'autres périodes.
Alors moi, ça m'a énormément intéressée parce que ça convoque des choses auxquelles je réfléchis aussi. Donc j'ai envie à la fois d'enfoncer le clou et de faire un peu l'avocat du diable parce que j'ai l'impression qu'on est tous d'accord et donc on ne va pas vraiment faire autre chose que de dire on est tous d'accord. Donc je commence par dire qu'on est d'accord. Et il y a un terme important, pour moi très important, tu as parlé de rapport. Pour moi, c'est ça la clé pour comprendre tout le reste. Et ça me donne l'occasion de citer un de mes grands héros, Laszlo Moholy-Nagy, définit le design pour lui tout, hein, pas que l'objet, comme penser en termes de relation. Donc pour moi, c'est ça vraiment. À partir de cette idée, tout s'explique. Donc ça m'a fait très plaisir d'entendre ça parce que je me suis battue pour ce concept, même dans ma thèse, dans mon travail, etc. Une autre référence intéressante que tu convoques, c'est Adolf Loos, et je vais donc m'appuyer sur lui pour faire l'avocat du diable maintenant.
Oui.
Sur ces histoires de continuité, tout est dessiné pour aller ensemble et tout ça, ça me fait penser, chose à laquelle j'adhère, j'insiste, ça me fait penser à un texte de Bly, l'histoire du pauvre homme riche. Je ne sais pas si je vais donner ce texte. Ouais. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, et sans faire absolument de long discours dessus, c'est un personnage qui est très heureux dans sa vie. Il a tout ce qu'il faut sauf du style. Donc il engage un architecte parce que c'est la seule chose qui lui manque dans sa vie. L'architecte lui fait vraiment magnifique. Tout est parfait, tout est dessiné, mais vraiment tout. Et donc il est comblé. Il a tout ce qu'il lui faut. Alors il invite sa famille à fêter son anniversaire et chacun apporte un cadeau, donc dont une paire de pantoufles. Et donc il les met tout de suite pour faire plaisir à sa femme. Et à ce moment-là, débarque l'architecte furieux. Comment ça se fait que tu as mis ces pantoufles au lieu de mettre les pantoufles que je t'avais dessinées, qui allaient très très bien avec la maison et avec le reste? Pour moi, ça c'est une question, mais pas juste pour toi, mais aussi pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est formé, on adhère à cette vision des choses, et à quel moment il reste un espace pour autre chose que ce que l'architecte et le designer a pensé. Tout comme la rumeur comme quoi Frank Lloyd Wright voulait que des vaches noires et blanches et pas des vaches de couleur. Pour moi, ce sont des vraies questions sur lesquelles on doit travailler, en réalité, nous, les designers.
Derrière toi, Carola, ou Jean Nouvel, interdisait effectivement les cubes bureaux, c'est-à-dire effectivement tout ce qu'on fout derrière son bureau en façade, effectivement, qui défigure son œuvre, puisque les bureaux sont adossés à la façade en verre, on interdisait de mettre les dossiers, on détruit là. Mais effectivement, c'est des questionnements sur des logiques autoritaires. C'est drôle que tu aies trouvé Archie d'intérieur chez Jeanneret.
Moi, j'avais l'impression qu'il il me semblait que c'était vraiment ça la démonstration. Moi, je l'ai compris comme une forme, enfin, ta boîte à outils de concepteur avec les transversalités architecture d'intérieur et design, qui est ta boîte et qui, je pense, on peut tous utiliser des choses et il y en a plein d'autres.
Je pense à Porto.
Mais pas vraiment sur.
Enfin, non, mais c'est les références
qu'ils ont reprises.
Bien sûr, Marie Stigens, typiquement, un autre cas.
C'est vrai que
tout est tellement dessiné qu'ils se disputaient avec ses clients parce qu'eux voulaient quand même, parce qu'ils sont ici, donc il se passe telle chose, et lui voulait vraiment avoir le contrôle. Et c'est vrai que c'est difficile la surprise sur le projet.
Bah, Marie Stigens et Loss, c'est plus ou moins la même période, ça ne marche pas du tout. Hein.
Ouais, ils sont pas pour chacun, c'est d'accord.
Ah non, mais c'est ça, ils ne sont pas du tout dans la même démarche.
Voilà.
C'est assez important parce qu'on peut retrouver des traits, oui, c'est un peu art déco, mais oui, c'est pas tout la même chose. Donc, par contre, oui, la boîte à outils, pour, enfin, c'est une interprétation quand même un peu poussée parce que je découvre ça parce qu'il faut qu'on parle, donc, donc je fais de l'interprétation, même de la surinterprétation parfois de mon travail. Mais bon, effectivement, je me rends compte qu'il y a des points communs, donc je les montre. Pour discuter, surtout.
Ça veut dire une chose importante quand même, c'est que dans la manière que tu présentes, c'est juste de clarifier ça. Tes trois activités, quand tu dis je fais en gros de l'architecture intérieur, je fais de l'architecture et je fais du design, sont trois activités qui peuvent être, qui sont à comprendre comme étant séparées.
Bah, pour moi, sont séparées.
Au-delà du lien que tu viens de faire,
non, mais
la méthode, dans l'approche du projet.
Ben oui, oui, ben il faut être honnête quand même. Quand on fait un porte-manteau, il y a un rapport avec quand même un bâtiment. Et c'est pour ça que je montre Rossi, et j'admire Rossi jusqu'à point, et après, il y a des choses que je ne comprends pas. Ben oui, je fais un porte-manteau, c'est un porte-manteau. Quoi. Non, mais on peut s'amuser, sur la façon qui est fait, on peut travailler sur des références différentes, mais pour moi, il y a plus de rapports... proportion gardée, mais il y a plus de rapport entre un porte-manteau, enfin moi n'importe qui, et un Giacometti avec une architecture. Un porte-manteau, bah, peut-être s'il est posé là, mais à 1m50 d'un coin, on va tourner autour et peut-être on va définir des mini-spatialités ou des qualités spatiales, comme a fait Giacometti en descendant la sculpture du socle. Mais oui, il y a plus de rapport avec la sculpture, avec c'est l'objet que l'architecture.
Moi, je suis d'accord une fois qu'il est contextualisé, mais dans la démarche de sa conceptualisation, je trouve que le rapprochement, il est plus proche.
Ben oui, alors c'est ça que j'essaie
avec
de dire.
L'architecture.
Oui, c'est ça que j'essaie de dire. Par contre, il y a ça, il y a la démarche que
faire projet, c'est faire projet.
Oui.
Que
ouais,
peu importe l'objet sur lequel tu travailles.
Ça... Par contre, pour faire au projet, on peut être formaliste, on peut être, je sais pas quoi, ou on peut être dans une logique d'un processus, d'une démarche. Et d'un processus qui se met en place avec un protocole ou des protocoles différents, rationnels ou pas, pour arriver à un résultat. Et après, quand même, le résultat, c'est le résultat. Quoi. Parce que je pense qu'on ne fait pas des choses pour être didactique. On explique après, mais les projets didactiques, je pense, ça existe, mais...
J'ai vu un autre aspect qui m'a touché là-dessus. Je ne sais pas si un aspect
compliment,
si l'on peut dire. Ouais. C'est que beaucoup d'exemples que vous avez montrés, c'est toujours un moment des analogies entre des sujets différents, d'échelles différentes, ouais. Et même donc dans l'immeuble, où on verra aussi un moment qui est très emblématique, même il ne se dit pas. Et souvent, dans votre discours, vous essayez à chaque fois de faire toujours voir, apparaître les articulations, les relations entre objets, architecture et autres. Et je me disais, est-ce que c'est une quête, et c'est avec, je dis avec beaucoup de respect, c'est peut-être, est-ce que c'est une quête de qui suis-je, qu'est-ce qui m'habille, qu'est-ce que, vous avez dit à un moment, j'aime bien les transparences et autres, et c'est une quête de dire quels sont le moteur intérieur qui motive ma création, et parce que finalement, on remplit un vide, dans la psychanalyse, on remplit un vide qui est un manque de quelque part et qui va être là. surtout notre domaine de création, hein, qu'on soit artiste, designer, architecte, on refait le même projet, mais jamais pareil. C'est un peu ça. Et alors, voici ce que j'ai pressenti dans votre discours, et ce qui m'intéressait de voir comment, l'articulation des liens dans votre. Vous nous expliquiez les choses, comment il y avait quelque chose de vous qui vous interrogeait intérieurement. Voilà. C'est ça que.
Un accouchement.
Mais qui s'opposerait, attention, qui s'opposerait à la radicalisme du design, une fois en fonction, quelle est la fonction, quelle est la technique, et on doit faire un design totalement objectif, ce qui n'est pas tout à fait le cas, dans la mesure où il y a beaucoup de designers, on reconnaît le nom en amont, parce qu'on sait que ou en aval, parce qu'on sait qu'il y a une façon de procédure, il y a une procédure de travail.
Bien sûr, oui. Surtout plus jamais. Oui, je suis d'accord.
Et alors, c'est une affaire en marche, si vous voulez savoir.
Je pense que, oui, c'est ça que j'ai dit depuis le début. C'était un peu difficile de parler quand même, d'essayer de parler de son propre travail et essayer d'expliquer des choses pour lesquelles, enfin, sur lesquelles je ne me suis pas encore vraiment penché parce que parfois on évite aussi. Donc oui, c'est forcément psychanalytique, oui, c'est un souci.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une clé de lecture de votre travail. Oui. Du coup, finalement, l'exercice, enfin, je pense que cette clé de lecture, elle existe en vous, puis, bien sûr. Et en tout cas, nous, pour ceux qui connaissaient bien ou pas bien votre travail, du coup, on a une vraie perception. Mais moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, au travers de cette présentation-là et cette clé de lecture, c'est ce que vous avez dit sur la question des rapports. Oui. Alors, je reviens sur ce qu'a dit Carola, je vais peut-être être un peu consensuel, peut-être mais moins celui qui est. Mais je trouve que c'est la question, à mon avis, fondamentale qui doit permettre de penser aussi la question et l'approche qu'on doit avoir sur le design dans cette école. Je pense que le cœur d'entrée, il me semble, parce qu'il est naturel d'une autre échelle qui est celle de. Enfin, je ne veux pas dire d'une autre échelle, parce que pour moi, ce n'est pas des échelles différentes. Et je pense que c'est vraiment intéressant de se dire que c'est un cœur de construction d'un enseignement sur cette discipline qui peut être très très large. On peut prendre sous l'angle de l'objet, mais si on prend sous la question du rapport, bien sûr, du rapport des proportions, du rapport dans l'espace, de l'interaction qui se fait avec celui qui va se saisir d'une tasse et d'un pot à lait, je viens de savoir. Et quel flux va-t-il créer, quel gestuel, quelle manière de jouer avec la matière qui va en sortir, et quelle du coup expérience beaucoup plus forte, et quel rapport en fait entre l'aliment, son geste, l'objet qui. Tout ça est une question de rapport, et il me semble que c'est. J'ai le sentiment en tout cas en vous écoutant que c'est quelque chose qui est fondamental dans une école comme celle-ci, qui a un cadre, qui est un cadre. Qui traite finalement le rapport.
Non, mais je suis d'accord parce que.
Dans un aménagement intérieur.
Je suis d'accord.
Dans un usage.
Je pense qu'aujourd'hui, quand on essaie toujours de réinventer l'école, en général, mais notre école ici aussi. Donc, oui, cette école est spéciale pour de quelques raisons. Qu'est-ce qu'il y a ?
Elle est spéciale ?
Non, elle est spéciale.
Oui, je pense qu'elle est spéciale.
Mais. Et du coup.
Pose-lui. Question.
Moi, j'ai une question.
C'est pas fini, quand même. Du coup, oui. Alors aujourd'hui, j'arrive à me dire que oui, cette école est très différente. Donc pas spéciale, mais elle est très différente. Oui, elle s'inscrit dans une logique d'enseignement, mais quand même, elle a des caractéristiques parce qu'il y a cette question, donc oui, de l'échelle, de rapport, de travail, de série, de sur mesure, enfin il y a tout qui se pose dans cette école-là, et c'est pour ça que je fais exprès de parler d'enseignement depuis le début de la discussion, parce que je crois qu'aujourd'hui les choses sont un peu figées, et moi mettre l'architecture intérieure, le design dans le truc des arts appliqués, il y a des fois et ça m'effruste, parce que alors, ça concerne les autres écoles aussi, mais ça leur convient, elles sont très bien. Après, chaque école, que ce soit à l'ENSI, les Arts Déco, ont trouvé leur façon de faire. Mais Oui, les arts appliqués, pour moi, je pense qu'à un moment donné, ça devient réducteur. Même si j'ai une grande admiration pour la typographie, par exemple, c'est un truc qui m'intéresse.
Moi, pour avoir la céramique. Vu certains d'entre vous encore, parce que je vous rencontre tous un par un, chacun a une perception différente de l'identité de l'école. Certains disent qu'on est une école d'art, d'autres disent qu'on est. Non, je l'ai entendu. Hein. Qu'on est une école d'art appliqué, qu'on est une école strictement d'architecture intérieure et design. Enfin, je veux dire, les appellations qui, sont, qui peuvent être perçues. Sont assez différentes finalement d'un individu à l'autre. Donc, enfin, moi, j'en ai pas une approche restrictive, mais je vous rejoins dans le raisonnement. Je pense que c'est une notion limitée aux arts appliqués serait très extrêmement réducteur sur l'ambition et la dimension de l'école.
Monsieur Christophe.
Oui, moi j'ai une question posée à tout le monde. En fait, n'étant pas designer, je me demande pourquoi on appelle ça le design. Pourquoi est-ce que vous dites design ? Parce que Alexis m'a demandé d'intervenir et moi je parlerai d'un mouvement qui est à l'origine de l'informatique dans la conception, qui est un mouvement anglo-saxon que Marie connaît peut-être, c'est celui des design théoriciens, enfin des théoriciens de la conception, le design compris comme conception, comme processus de conception. Et la question que je vous pose, c'est pourquoi on appelle design, je n'ai pas la réponse, mais vous l'avez sans doute. Cette activité qui consiste à concevoir des objets, des meubles, etc., en particulier en France. Pourquoi on a pris ce terme design ?
C'est l'histoire de
je crois que c'est effectivement la question que vous posez est fondamentale. Le terme de design vient de l'anglais, je crois, au 18e, qui dessinait l'édifice avec, dans sa perspective de sa construction avec sa pensée spirituelle, religieuse. Donc c'était. L'objectif, c'est une pensée, quelle est la destination, et on construit pour en fonction. Mais le problème, c'est que ce terme est arrivé dans les années 65, pour un moment avec le bouleversement qu'il y avait avec les mouvements italiens, après les Danois, les Américains, dont la chronologie américaine, Danois, Scandinave, et puis les Italiens qui vont. Et le terme va apparaître. Et d'un seul coup, on va appeler tout le territoire de la Radamente, c'est-à-dire des Italiens, on va l'appeler le design. Qui veulent lui donner une identité réductrice, un style. J'ai déjà entendu des gens dire style design.
Bien sûr.
Ce qui est monstrueux. Et votre réflexion est tout à fait juste. Le design, c'est la conception de base. Alors qu'elle s'adresse autant à un architecte, à un plasticien. Moi, je l'intégrerai quand même dans la procédure où il y a un champ industriel qui intervient. Voilà. Mais qu'il soit technologique et autre, c'est ça. C'est une conception large.
Ah! C'est intéressant. Donc, ça veut dire que la notion de design d'espace est, entre guillemets, avec beaucoup de points d'interrogation, par exemple.
J'ai pas compris la fin de. Le design d'espace est.
C'est. Il faut mettre beaucoup de points d'interrogation et de guillemets, alors. Parce que.
Moi, je crois que le terme englobe la totalité de la création, que ce soit de l'édifice jusqu'à l'objet le plus modeste. C'est le tout est de savoir donc, pourquoi on le fait. La pyramide et tout le système, la hiérarchie des constructions, de la technologie, du sens, d'une pensée, d'une philosophie, d'une économie, d'une politique intervient dedans. Design, c'est une conception totale, elle est politique. C'est sa noblesse. Hein. Moi, j'étais amené à dire à l'Église récemment que j'ai fait cette forme. Le cinéma a identifié le XXe siècle culturellement, et je pense que le design va identifier la première moitié du XXIe siècle parce qu'il touche tous les territoires sociologiques, économiques, artistiques, idéologiques,
politiques. Voilà. Juste rajouter vraiment le design, c'est un mot intéressant parce que c'est un gallicisme dans le monde anglo-saxon, c'est un mot d'origine française, c'est le dessin, c'est la pensée. C'est
là.
Le design, le dessin à dessin.
Oui.
Mais par rapport justement, juste rajouter une petite chose moi par rapport à ça, c'est ce que tu disais, ce qui est très intéressant tout à l'heure, ce qui a été remarqué. Parce que en fait, je vous ai posé une question, cette question à laquelle tu n'avais pas pensé au préalable. Cette question, tu as essayé d'y répondre, pour y répondre, tu as reformulé la question.
Oui.
Tu as donné du sens à ton travail, tu as fait ce que tu n'as pas fait depuis que tu étais étudiant, en fait, c'est-à-dire effectivement justifier et soutenir une partie de ta démarche conceptuelle et de projet.
Oui, oui.
C'est assez étonnant. Et tout à l'heure, effectivement, ce qu'on s'est dit, c'est ça, c'est une forme d'accouchement. c'est ce qu'on appelle, enfin, Manuelita a repris le terme, de la maïeutique. C'est, je pense, vraiment le propre de ce qu'on fait ici, vous, nous tous, là, en tant que prof, à longueur de semaine. C'est-à-dire qu'on accouche des gens, et puis on les aide à se trouver et à se chercher, c'est-à-dire à trouver leur propre pensée. C'est, je pense, le propre hein, de l'enseignement, de ce qu'on fait, en fait, au quotidien dans l'école. Voilà, c'est ce qui me traverse l'esprit en t'écoutant. Je crois qu'il est un peu tard, enfin, tout ça est riche, passionnant. Enfin, moi, je vous remercie beaucoup.
Mais t'as faim.
Parce que l'exercice n'était pas facile. Et de revenir aux suivantes, parce qu'en fait, il va y avoir vraiment des échos, je pense entre autres à ce qu'on a commencé à soulever en termes d'origine, de design, de la séparation des activités. Je pense que Valérie Calignon, au mois de janvier, va nous apporter de nombreuses clés de compréhension de ça. Que la fois prochaine, on va avoir des gens plus jeunes que vous, que nous, qui vont vous parler un peu de leur propre expérience. Que Christian reviendra avec la question du numérique le 9 décembre. Et que donc, on va avoir une espèce de comme ça, de fil conducteur qui normalement devrait. Une discussion qui va se prolonger, qui va rebondir de séance en séance. Voilà. Pour les étudiants,
ouais, il y a ça.
Ah oui, bien sûr.
Non, je pense
qu'en plus, il faut que je les passe sur le site.
Il semble que la façon dont a été construit cette année, la façon dont Alexis a construit le programme, est très spécifiquement un peu, j'allais dire, centrée sur des questions un peu d'identité, de nos métiers, de ce qu'est l'école, etc. C'est des angles assez habiles qui, finalement, à un moment ou à un autre, bon, moi je le vois avec ce prisme-là, ce qui est un peu normal, mais je trouve, nourrissent la pensée sur à la fois l'identité, je ne veux pas dire des disciplines, parce que du coup on commence à resectoriser beaucoup les choses, mais en tout cas sur l'identité de l'école. Donc, je pense que c'est un lieu assez intéressant de diffusion de la pensée, peut-être de formalisation d'un certain nombre de choses.
C'est demain.
Pour l'utiliser comme ça en tout cas, je pense.
Dominique, une info.
Il est presque plus interne en fait en ce moment. Peut-être que cette année, il est presque plus un peu entre nous. Ça peut intéresser des gens, je pense, à l'extérieur, parce que ce que vous avez présenté, ce que vous avez dit, était, je pense, de la connaissance et du témoignage très exportable vis-à-vis de l'extérieur. Mais c'est un outil, je pense, vraiment intéressant pour nous en interne.
J'ai une information, si vous voulez, intéressante, peut-être, pour ceux qui seront disponibles demain et après-demain. Ça fait beaucoup. Un colloque international co-organisé par l'ENSAD Lab et l'IRI Centre Pompidou. Donc ça s'appelle l'Argogénèse pour un nouveau paradigme de recherche en art et en design. Donc c'est à partir de... C'est avec Bernard Stiegler et tout. Alors c'est assez... Oui, c'est tout un tas de doctorants et de chercheurs qui sont autour de Stiegler. Et qui s'intéresse aux questions de conception, évidemment, en art et en design. Et ça commence demain à 9h15 à l'ENSAD. Avec Igor Galego, moi j'en oublie, il y en a un paquet.
Igor Galego, qu'on fera peut-être intervenir.
Oui, Samuel Bianchini, Everardo Reyes Garcia, Bernard Stiegler, bien sûr. Voilà.
Pardon de rajouter, mais je pense que ce que fait l'ENSAD vraiment est formidable. Et je formule un vœu, c'est qu'on développe ça, prenne le temps de le développer, mais que ça existe à l'école. Parce que je pense qu'on peut porter des questions. Alors après, de manière peut-être des angles différents, mais je pense qu'il faut commencer ça en école. Finalement, voilà.
On avait évoqué il y a longtemps qui avec Mathilde Bretillot une ambiance lab.
Ambiance lab. Tu vois de nous ?
Vas-y.
Merci. Parfait.